Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Liselotte Dutreuil.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Ravi de vous retrouver une journée de plus. J'espère que votre semaine se passe bien. Ce matin, je suis avec Franck à la technique. Bonjour Franck.
Bonjour Liselotte, bonjour à tous.
Magda Dautefeuille est là aussi, Maïlys Clausel, Richard de Seize et Alexandre de Galzin est en reportage sur le terrain. Suivez nos réseaux sociaux. Vous en pourrez en apprécier les fruits d'ici quelques jours. Pour votre programme ce matin, François Martin est avec nous dans quelques minutes. On va s'interroger sur le conflit en Iran à nouveau, mais ce conflit va-t-il durer ? On en parle donc. Pour votre grand entretien, Jean-Jacques Cordival, un syndicat de France TV épingle le système AirNot. Voilà, on aura une vision de l'intérieur de ce système. Ça promet d'être salé, c'est à 7h25. Pour votre débattons-en, c'est Richard de Seize qui reçoit Alain Pocard. Paris libéré mais Paris martyrisé, les municipales vont-elles changer la donne? Et puis enfin, vous le savez, notre partenaire du jour le mercredi, c'est Xavier Van Lierde. On écoutera son analyse. Pour le moment, le bulletin d'actualité, c'est avec Maïlys Clausel.
Bonjour Liselotte et bonjour à tous nos auditeurs. Alors au quatrième jour de l'offensive israélo-américaine contre la République islamique d'Iran, Emmanuel Macron s'est adressé hier soir aux Français. Le président a jugé les frappes menées par Donald Trump et Benjamin Netanyahou contraire au droit international, tout en estimant que la responsabilité première revient à Téhéran. Trois jours après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, il affirme que l'histoire ne pleure jamais les bourreaux de leur peuple, confiant-lui que l'histoire ne pleure pas non plus les traîtres anti-France de son genre. En tout cas, la France confirme avoir abattu des drones en légitime défense, mobilisé des rafales aux Émirats et déployé la frégate Languedoc ainsi que les porte-avions Charles de Gaulle vers la Méditerranée. Deux vols de rapatriement des ressortissants français au Moyen-Orient sont attendus à Paris, tandis que le plan Sentinelle est renforcé face au risque d'action terroriste du régime iranien. David Cumin soulignait hier à notre antenne les conséquences peu joyeuses qui risquent de survenir suite aux frappes américano-israéliennes sur l'Iran.
Moi, ce que je vois arriver, c'est après la guerre étrangère, la guerre entre États, aérocentrée, je vois venir une guerre civile. Et alors, guerre civile, ça signifie évidemment de l'instabilité, ça signifie des réfugiés, des déplacés, ça signifie que les pays voisins, évidemment, ne se sentiront pas en sécurité. Qu'est-ce qui va sortir de la guerre civile iranienne ? C'est le gros point d'interrogation. On escompte que parmi les opposants iraniens, il y ait des démocrates pro-occidentaux, on va dire. Il y en a sans doute. Il y en avait en Irak, il y en avait en Afghanistan. Mais ils ne l'ont pas emporté. Pourraient-ils l'emporter en Iran ? Je ne sais pas. L'Iran n'a jamais connu de démocratie occidentale. Hein. Le régime du Shah était un régime moderniste, pro-occidental. Mais ce n'était pas vraiment un régime démocratique. Effectivement. Alors là, ce serait une nouveauté. Alors les exilés amèneraient dans le pays l'expérience de la démocratie. Les Iraniens du cru y adhéreraient. Nous sommes dans l'expectative.
C'était David Cumin sur Ligne Droite. L'entretien complet est à retrouver sur notre chaîne YouTube.
Et encore un méfait d'une mairie socialiste, et cette fois-ci c'est celle de Saint-Nazaire qui porte le chapeau.
Oui, mais figurez-vous, Liselotte, que le Conseil d'État a enfin fait son travail et a annulé une subvention de 10 000 euros accordée en 2020 à SOS Méditerranée. La haute juridiction estime que la délibération ne prévoyait aucun contrôle sérieux sur l'utilisation de l'argent public, sans blague ni garantie que les fonds seraient strictement réservés aux opérations de sauvetage en mer, même si ceux qui ont véritablement besoin d'argent public, ce sont peut-être les Français, puisque ce sont eux qui cotisent. Qui plus est, aucun remboursement n'est toutefois exigé. À l'origine du recours, l'élu RN Gauthier Boucher dénonçait une dépense sans véritable intérêt local. Malgré cette décision, le maire PS David Samzun persiste et annonce vouloir augmenter la subvention à 14 000 euros pour 2026. Donc espérons que celle-ci ne voit pas le jour.
Et la victoire des municipales à Paris se précise.
Oui, absolument. À 2 semaines des municipales 2026 à Paris, un sondage Ipsos place Emmanuel Grégoire en tête avec 35% des intentions de vote, devant Rachida Dati à 27%. Derrière, Pierre-Yves Bournazel et Sarah Knafaux sont à égalité à 11,5%, suivi de Sofia Chikirou à 10% et Thierry Mariani à 4%. Sécurité, propreté et logement arrivent largement en tête des priorités des Parisiens. Dans le détail, le clivage est net. 57% des sondés sont favorables à l'armement de la police municipale, mais la mesure est massivement soutenue à droite et rejetée à gauche, comme par hasard. Même fracture sur le périphérique à 70 km/h et les pistes cyclables. Néanmoins, un détail interpelle, si la sécurité est la priorité des Parisiens, pourquoi voter massivement pour Emmanuel Grégoire, qui est un socialiste, ni plus ni moins héritier d'Anne Hidalgo? Il s'agirait d'apprendre de ses erreurs, ce qui ne semble pas, malheureusement, être le cas pour les habitants de la capitale.
Et quid du futur chef suprême iranien, Maïs?
Eh bien, l'ambiance est assez mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque l'assemblée des experts chargée de désigner le futur guide suprême en Iran a été visée mardi à Qom par une frappe attribuée à Israël et aux États-Unis. Une attaque hautement symbolique, quelques jours seulement après la mort d'Ali Khamenei, tué au premier jour du conflit. Après un premier site touché à Téhéran, c'est désormais le cœur même du mécanisme de succession qui est frappé. Aucune confirmation officielle sur d'éventuelles victimes, mais le message est toutefois limpide. La transition du régime iranien se fait désormais sous les bombes.
Et pour le sport, le championnat du monde d'endurance au Qatar attendra.
Tout à fait, le coup d'envoi du championnat du monde d'endurance est repoussé, initialement programmé du 26 au 28 mars au Qatar. Les 1812 km d'ouverture n'auront pas lieu à cette date en raison de la dégradation de la situation géopolitique au Moyen-Orient, ont annoncé les organisateurs du championnat du monde d'endurance FIA. La course prévue sur le circuit international de Lusail sera reprogrammée dans la seconde moitié de la saison 2026. Et en attendant, la saison débutera officiellement avec les 6 heures d'Imola du 17 au 19 avril en Italie.
Et on termine par la météo.
Oui, aujourd'hui, toujours un grand soleil sur l'ensemble du pays, sauf dans les Pyrénées où des averses sont attendues. Côté température, nous pourrons retrouver ce matin 5 à Lille, 6 au Mans, 7 à Paris. Et dans l'après-midi, nous attendons pour les maximales 16 degrés sur le Grand Est, 18 pour les Hauts-de-France, 14 pour la Normandie et de 15 à 19 autour du Golfe du Lion. Et nous célébrons en ce 4 mars Saint-Casimir, prince de Pologne et grand-duc de Lituanie et Saint-Sadoc.
Bonne fête à eux. Merci Maëlys.
Ligne droite.
Et on poursuit avec le décryptage de Magda Hautefeuille.
Chers auditeurs, alors que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni se disent prêts à des actions défensives pour neutraliser les capacités militaires iraniennes, quelque chose ressort tout particulièrement. Nous assistons à deux manières différentes de faire la guerre. D'un côté, les armées occidentales qui sont basées sur la technologie, la précision, les missiles sophistiqués et les équipements très coûteux. Et de l'autre, l'Iran basé sur le volume, la saturation, les coûts réduits et l'usure économique de l'adversaire. Cette différence est très concrète. Prenons d'abord les intercepteurs occidentaux. Un missile Patriot PAC-3 est estimé autour de 3,4 millions d'euros. Le missile naval américain SM-6 est évalué à environ 2,5 millions d'euros. Et certaines analyses évoquent même des intercepteurs antimissiles pouvant atteindre 12,8 millions d'euros l'unité. Ce sont des armes extrêmement performantes. Elles peuvent intercepter des cibles rapides, parfois manœuvrantes, capables de brouillage électronique. En bref, elles sont fiables, précises et sophistiquées, mais elles sont très chères. En face, la logique iranienne totalement asymétrique, le drone Shahed 136, utilisé massivement en Ukraine et au Moyen-Orient, est estimé entre 17 000 et 42 000 euros. Alors même si certains contrats évoquent des montants plus élevés jusqu'à environ 160 000 euros, on reste dans un ordre de grandeur sans commune mesure avec les intercepteurs occidentaux. Le calcul est donc simple, si vous abattez un drone à 20 000 euros avec un missile à plus de 3 millions d'euros, vous gagnez tactiquement, mais vous perdez économiquement. C'est ce que l'on appelle l'équation du coût partir. C'est d'ailleurs pour cela que les Occidentaux cherchent des solutions moins onéreuses, comme par exemple des intercepteurs anti-drones plus légers comme le Coyote, estimé autour de 100 000 euros, ou encore le Roadrunner M, autour de 430 000 euros, qui sont justement mis en avant pour éviter de gaspiller des missiles stratégiques contre des cibles, disons, bon marché. La France, elle aussi, a accéléré ses investissements dans les stocks de munitions, l'anti-drone et la production de missiles avec environ 1 milliard d'euros, prévu sur 2025-2027 pour les munitions et 300 millions d'euros pour l'anti-drone. Et de son côté, Renault prévoit de multiplier par 6 sa production de drones en France. Mais la stratégie iranienne ne vise pas forcément à percer à 100%, autrement dit, elle ne cherche pas nécessairement à faire passer toutes ses frappes, elle vise à saturer. Par exemple, lors de l'attaque iranienne du 13 avril 2024 contre Israël, 99% des drones et missiles auraient été interceptés. C'est impressionnant, mais cela signifie aussi qu'il a fallu mobiliser des dizaines d'intercepteurs coûteux pour contrer des vecteurs beaucoup moins chers. C'est là que les deux modèles s'affrontent. Et ce qui change aujourd'hui, c'est que ces deux modèles commencent à se rapprocher. L'Iran développe aussi des missiles plus performants, tandis que les armées occidentales investissent de plus en plus dans des systèmes consommables, moins coûteux et plus nombreux. Ce n'est donc plus seulement une question militaire, mais c'est aussi une question économique. Celui qui épuise le premier les stocks et les finances de l'autre prend un avantage stratégique. Alors que les stocks d'artillerie française ne permettraient de tenir que quelques semaines en cas de conflit de haute intensité, la puissance ne se mesure pas seulement avec la technologie, mais elle se mesure aussi et surtout en capacité à tenir sur la durée.
Merci Magda pour ce décryptage.
Ligne droite. Debout les Français.
La capacité à durer dans le temps dans un conflit est donc primordiale. Magda Hautefeuille vient de vous le démontrer brillamment. Et c'est la question qu'on se pose tout de suite avec François Martin. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Liselotte, je me pose une question. D'abord, où est le coq? Je ne le vois pas. Il est caché sous la table ou bien...
Il est...
Ce n'est pas un coq, c'est un cochon
c'est
en fait.
C'est un cochon, François Martin, il est sur la table. Mais il est toujours là, il y en a même un autre sur le mur pour tout vous dire, chers auditeurs. Nous avons des petits cochons dispersés dans le studio et on fait pénitence lorsqu'on prononce un mot en anglais. Voilà, ce sont des tirelires en fait. Comme ça, tout le monde donne pour Radio Courtoisie. Bon, on va parler d'Iran quand même, François Martin. Donc, sur cette question de la durée, précisément, aujourd'hui, il faudrait être Madame Irma ou un très bon prophète pour pouvoir déterminer combien de temps le conflit va durer. Néanmoins, on a quand même quelques outils pour essayer de se projeter. Oui. Magda Hautefeuille le disait encore une fois, les capacités économiques des belligérants sont primordiales. Oui. Voilà, quelle est votre analyse, vous, sur la question? Est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose qui s'installe? Est-ce que les Occidentaux doivent s'inquiéter? On sait que ça aurait des implications, par exemple, sur le prix du pétrole. Dites-nous tout.
Alors, d'abord... l'analyse de Magda me paraît correcte. La question de la durée me paraît effectivement être très importante. C'est même la question principale. Alors, il y a plusieurs réflexions préalables qui permettent de faire comprendre le conflit. L'une d'entre elles, c'est, je dirais, par-delà l'organisation et la logistique exceptionnelle de cette affaire, une certaine forme d'improvisation, je veux dire. Deux aspects pour ça. L'un, c'est que ce qui était prévu, en fait, ce qui s'est passé, ce n'est pas le scénario qui était prévu, puisque ce qui était prévu, c'était que la flotte que les États-Unis avaient fait venir de mer de Chine, elle devait être arrivée pour soutenir les émeutes et la sédition, éventuellement bombardée à ce moment-là. Or, le timing n'a pas été respecté, puisque quand la flotte est arrivée, la sédition avait déjà été matée, était terminée. Donc la flotte s'est retrouvée là, disons, dans un scénario dans lequel elle n'était pas prévue, et je pense que ça a compliqué les choses. Un deuxième aspect d'improvisation, c'est que je pense, plusieurs éléments tendent à le prouver, qu'en fait, il y a eu un round de négociation, comme on le sait, et qu'à un moment donné, le round de négociation a été interrompu par la frappe. Et mon avis, moi, c'est que, en fait, le plan qui était prévu était le plan de la négociation, et que les Israéliens, à un moment donné, ont proposé aux Américains de taper. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient au courant, à cause de fuites, du rendez-vous qui a eu lieu avec... le chef de la révolution avec l'ayatollah Khamenei, où il y avait plus d'une quarantaine de personnes. Et ça, je dirais, c'est une erreur absolument majeure des Iraniens qui ont fait confiance aux Américains et qui ont dit « bon, ben, on est en train de négocier, donc on est dans un système de paix ». Et les Israéliens, comme ils l'ont déjà fait au moment où ils ont tiré sur la délégation du Hamas, on s'en souvient, à Doha, on dit, bon, ben, on a une occasion extraordinaire de couper la tête de ce régime, et alors on y va, et Trump a sauté sur l'occasion. J'en veux pour preuve le fait que personne n'a été prévenu dans cette affaire, ce qui est tout à fait anormal. Les Européens, les alliés européens n'ont même pas été prévenus. Le Congrès américain n'a pas été prévenu, personne n'a été prévenu. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait anormal. Et l'autre élément qui est très important à comprendre, c'est que je pense que Trump a été trompé, si je veux dire. Les Israéliens ont trompé Trump. Alors ça aussi, c'est très important de le comprendre. Et j'en veux pour preuve une affirmation qui est venue par Seymour Hersh, que vous savez, c'est le grand journaliste américain, celui qui a montré le poteau rose concernant la destruction du pipeline Nord Stream par les Américains. Et Seymour Hersh, qui a très bien introduit au sein des renseignements, a eu accès, semble-t-il, aux documents qui transmet aux renseignements américains les analyses provenant du Mossad. Et ceci dit deux choses extrêmement importantes. La première, c'est que les Iraniens n'ont pratiquement plus de missiles, alors que tous les spécialistes vous disent qu'ils en ont des centaines et même des milliers. Donc pratiquement plus de missiles, que la guerre des 12 jours avait pratiquement épuisé tous les missiles. Et d'autre part, qu'ils avaient l'absolue certitude que si on décapitait le régime, le régime s'effondrerait en une semaine. C'est pour ça que Trump a pris le risque, qui est un risque énorme, en fait, de monter une guerre avec un scénario d'une semaine, parce que, en fait, les missiles dont disposent les Américains, et ça, c'est vrai, et tous les spécialistes le savent, elles permettent aux États-Unis de tirer une semaine, deux semaines, trois semaines maximum. Donc, en fait, Trump est dans la situation où ses copains lui ont dit « Vas-y, mets la main là-dedans, dans le tronc de l'arbre, il y a du miel à l'intérieur. » Il a mis la main et maintenant, il se trouve qu'il a mis la main dans un essaim de guêpes. Donc, la situation de Trump, en fait, est très dangereuse. Très, très dangereuse. Les Iraniens ont fait exactement ce qu'ils avaient décidé, c'est-à-dire, premièrement, la guerre sera régionale, c'est-à-dire, on tapera sur les intérêts américains dans le Golfe, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont, pour l'instant, réservé la deuxième étape qui consiste à taper sur les champs pétroliers. Et s'ils le font, ce n'est pas $200 que montrera le pétrole, c'est à $820,000. Donc ça, c'est la première chose. Ils l'avaient dit, ils l'ont fait. La deuxième chose qu'ils avaient dit, c'est qu'ils fermeraient le détroit d'Ormuz. C'est ce qu'ils ont fait. Et la troisième chose qu'ils ont dite, et qui pour l'instant, à mon avis, ils conservent comme une menace sans le faire véritablement, c'est couler un des bateaux américains. Et si ça se passe, Trump est vraiment dans une situation très grave. Pourquoi ? Parce qu'il est censé, il ne peut absolument pas se permettre de lancer une opération, celle-là, sans avoir l'aval du Congrès et sans prouver au Congrès qu'il y a une menace imminente pour les États-Unis. Or, le Congrès a demandé au chef de l'armée américaine d'être auditionné, je crois que Marco Rubio l'a été aussi, j'en suis sûr même, et ils ont dit une chose, c'est qu'il n'y avait pas de menace immédiate pour les États-Unis. Donc ça veut dire que Trump a mis son pays dans le danger d'une guerre, alors même que le risque n'était pas celui-là. C'est très clairement un risque d'impeachment, à mon avis, pour Trump dans une situation comme celle-là. Donc moi, ce que je pense, et c'est la conclusion à laquelle je vous propose, je ne pense pas que la guerre va durer longtemps. Non pas parce que les Iraniens vont être cassés, parce qu'en fait, le régime est beaucoup plus solide que ce qu'on peut, et je peux le détailler si vous voulez, mais surtout parce que Trump va se rendre compte qu'il s'est fait avoir, il va se rendre compte très très vite, je pense qu'il s'en est déjà rendu compte, qu'il a été trompé par ses amis israéliens, et il va nous faire ce qu'il a déjà fait avec les outils, c'est-à-dire non pas courage, fuyons, mais victoire, fuyons. ça y est, j'ai obtenu ce que j'ai eu, je suis vainqueur, on peut partir. Et puis, il va foutre le camp. Parce que si jamais il y a un bateau qui est coulé, il se met, avec des centaines de morts, il se met par rapport à son congrès dans une situation absolument impossible, puisqu'il est aujourd'hui totalement prouvé que les États-Unis n'étaient pas en danger dans cette affaire. Donc voilà un peu ce que je pense. Ça risque d'aller, je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, mais je pense que ça peut peut-être s'en sortir. Et alors le paradoxe, c'est que si c'est le cas, pour arrêter de taper, les Iraniens exigeront la levée des sanctions et ils risquent d'avoir, dans une négociation à chaud de sortie de guerre, des conditions meilleures que celles qu'ils avaient acceptées lors de la négociation qui n'a pas abouti, puisqu'ils avaient accepté de rendre les 400 kilos d'uranium enrichi, ce qui était quand même une avancée pour les Américains qui était énorme. Alors, ils ne pensaient pas le donner, je pense, aux Américains comme c'était demandé, mais aux Russes, mais en tout cas, ils se seraient privés de leur enrichissement civil pour la levée des sanctions, et ils risquent d'être dans une situation qui est meilleure. Alors, je compléterai très rapidement en disant que si les Américains nous font le coup des outils où ils ont fait une signature d'une paix séparée, ils ont eu tellement peur de se faire taper un bateau qu'ils ont arrêté les frais, ils ont signé une paix séparée avec les Houthis et ils n'ont même pas exigé des Houthis qu'ils arrêtent de taper sur Israël. Donc là, il risque de se passer la même chose, je pense. Il risque de se passer la même chose, mais si c'est le cas et que les Iraniens continuent à taper sur Israël, je pense pour ma part que les Iraniens, à un moment donné, s'arrêteront. Parce que autant ils veulent donner une bonne leçon à Israël, ils veulent qu'Israël arrête de les bombarder, mais par ailleurs, ils ne veulent pas non plus mettre Israël dans une situation où Israël puisse dire « nous sommes aux abois, donc nous sommes justifiés pour tirer une bombe nucléaire ». Donc je pense, comme pendant la guerre des 12 jours, que les Iraniens s'arrêteront à ce moment-là pour ne pas se mettre en danger nucléaire. Donc voilà. Donc cette guerre peut, je ne dis pas qu'elle va, mais contrairement à ce que disent pas mal de gens, je pense que la guerre, si les choses se passent comme ça, et si Trump a une réaction intelligente en disant « oulala, je me suis fait couillonner, je ne vais pas risquer 2 millions de dollars sur le tapis de poker parce que je vais me les faire ramasser, et après j'aurai le Congrès en face de moi qui ne va pas me rater », ça risque de se terminer, je vous dis, par victoire fuyon. Voilà, c'est ça. Ça que je pense.
Bah, merci pour votre analyse, François Martin. On va suivre tout ça et puis on essaiera de rester attentif également aux interventions européennes dans ce conflit, parce que Maëlys Clauzel nous le disait ce matin, il y a déjà Emmanuel Macron qui envoie des porte-avions et autres. Donc, on suivra tout ça de très près et on ne manquera pas de vous réinviter pour poursuivre cette analyse. Merci beaucoup, François Martin.
Je peux simplement rajouter une toute petite chose, c'est que là, on est véritablement dans la posture avec Macron, parce que l'Europe ne sert strictement à rien. Bon, ils vont envoyer quelques avions pour la raison que je dis, et les Anglais aussi, parce que les Américains sont totalement à court de munitions et qu'on sait que dans 15 jours, ils n'ont plus rien pour taper. Mais ça va rajouter quoi, une petite goutte de plus dans le breuvage, mais ça ne changera rien du tout à la situation stratégique.
Ça permet à Emmanuel Macron de se mettre dans une certaine posture. Comme
non, mais il viendra au Moyen-Orient entouré de six rafales, je pense.
Merci François Martin, à très bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Lise-Lotte Dutreuil.
Merci chers auditeurs d'être avec nous ce matin. Bonjour à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Dans quelques minutes, on retrouvera Richard de Sesse pour une chronique. Il n'était pas avec nous hier, donc vous voyez, ce n'était que partie remise. Vous l'aurez, votre chronique de Richard de Sesse. Tout de suite, on reçoit Jean-Jacques Cordival.
Ligne droite. Le grand entretien.
Bonjour Jean-Jacques Cordival et merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez bien ?
Oui, tout à fait.
Vous êtes entre autres choses secrétaire général du syndicat des personnels de la communication et de l'audiovisuel et puis Vous faites parler de vous en ce moment avec cette commission d'enquête que mène Charles Aloncle pour savoir comment est utilisé l'argent des Français par France Télévisions notamment. Et donc, votre témoignage a été très précieux dans le cadre de ces enquêtes. Vous, donc, Jean-Jacques Cordival, vous expliquez déjà pour commencer que la nomination même de Delphine Ernotte est déjà un scandale en soi. Donc on pourra ensuite entrer dans les détails, la façon dont fonctionne France TV. Est-ce que vous pourriez commencer déjà par nous livrer votre avis donc, sur cette nomination de Delphine Ernotte qui effectivement pose tout un tas de questions?
Écoutez, elle remonte à 10 ans maintenant. Elle était encore à Orange à l'époque. À l'époque où le PDG était mis en examen pour, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de l'arbitrage tapis, Stéphane Richard était mis en examen, elle envoie un mail aux 110 000 personnes de l'entreprise où elle explique qu'il faut en finir avec la corruption, la corruption, la corruption. Le mot apparaît plusieurs fois dans le mail qu'elle envoie au personnel. On est à l'époque des suicides, souvenez-vous. Vous imaginez la tête du PDG lorsqu'il arrive et qu'il voit ce mail adressé à tout le monde. Donc en gros, elle ne peut pas rester, c'est une évidence. Donc il faut la mettre ailleurs, voilà. Et donc à l'époque, donc on a déposé plainte. La plainte a mis 6 ans avant de ne pas aboutir d'ailleurs, puisque tout était fait pour qu'elle aboutisse, mais elle n'a pas abouti. Quand je dis elle n'a pas abouti, c'est-à-dire qu'on a eu une juge d'instruction, on a eu une quarantaine de personnes qui ont été entendues, y compris le président de la République, y compris des membres du CSA. Et puis à la fin, on nous a dit, bon, la juge a été mutée. On nous a expliqué qu'en gros, on allait classer cette affaire, que normalement, elle n'aurait pas dû la classer. Point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, mais elle a classé quand même. Et donc, on a saisi la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction a décidé qu'elle se substitue à la juge. Et donc, elle a classé cette affaire. On était déjà dans un deuxième mandat. Mais en gros, la loi dit qu'il faut quelqu'un du secteur, la loi de 2013, et il faut quelqu'un dont les compétences et l'expérience sont forcément un paramètre indispensable. Elle n'avait ni l'un ni l'autre, ni compétences, elle n'avait pas les critères de la loi et en plus elle ne venait pas du secteur. Donc ni expérience ni compétences en la matière. Elle a quand même été mise en place. Parachutée. Moi, il n'y a pas d'autre mot, je ne trouve pas d'autre mot que parachutée.
Alors, c'est finalement, l'un des aspects dénoncés donc, dans le fonctionnement de France TV, cette façon dont seraient placés les employés, les salariés. En réalité, on a l'impression d'être face à une grande bande d'amis qui se recyclent. Et puis, donc, vous expliquez aussi, Jean-Jacques Cordival, que certaines personnes, lorsqu'elles doivent quitter un poste, sont en fait reléguées sur d'autres postes qui sont présentés comme ne servant à rien, si ce n'est permettre de continuer à leur verser un salaire, encore une fois, avec l'argent public.
Regardez, une des dernières expériences, enfin, dernier fait en place, on vous annonce que le directeur de l'info, donc on en est au 7e, est remplacé. Très bien. Il est remplacé par quelqu'un qui vient de BFM, donc toute une partie de BFM arrive en même temps sur France Télévisions. Est-ce que vous imaginez la tête des gens, entre parenthèses, quand ils voient arriver... On leur dit qu'il n'y a plus d'argent, mais ils voient arriver tout un pan de BFM. C'est parfait. Donc, ce n'est pas des petits salaires à chaque fois. Donc, on en est au 7e directeur, peut-être, ça doit être le 8e, je crois, celui-là. Il y a un moment ou un autre, on vous dit, il a été mis sur un projet intelligence artificielle. Alors que tout le monde sait, entre parenthèses, qu'il est en train de négocier son départ. C'est un secret pour personne. Le directeur précédent de France Info, par exemple, qui a été mis en défiance, on l'a retrouvé comme directeur de l'innovation. Je ne sais pas trop ce que c'est, directeur de l'innovation. Mais enfin, voilà. C'est vrai qu'à France Télévisions, on innove beaucoup.
Vous faites parler de vous particulièrement en ce moment, Jean-Jacques Cordival, puisque en prenant contact avec vous, vous nous avez livré cette information. Tout le travail de commission d'enquête qui est actuellement abattu par Charles Aloncle depuis maintenant des mois pourrait n'aboutir à rien, puisque le rapport qui est censé découler de cette commission d'enquête pourrait ne jamais voir le jour. Notre journaliste Julie nous en disait un peu plus, nous expliquait cela hier à l'antenne. Est-ce que vous pourriez repréciser ce qu'il se passe et donc nous parler de cette note que vous avez reçue et qui explique clairement que voilà, si jamais le résultat n'est pas satisfaisant, eh bien tout le monde pourra s'accorder, voter, encore une fois entre amis, pour que jamais personne ne puisse lire un quelconque rapport à propos de cette commission d'enquête.
Alors, vous avez compris que ce n'est pas moi qui décide de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas en commission d'enquête. Hein. Bon, vous dites, depuis un petit moment, je dirais que sur une commission qui doit durer 6 mois, il y a déjà eu 3 mois de suspension voulue par le président Patriletus. Là, de nouveau, on est en suspension de 3 semaines à cause des élections. Et puis, ça se termine en gros fin mars. C'est-à-dire que Charles Lalonde, finalement, n'aura eu que 2 mois à peu près pour une commission qui dure 6 mois. C'est quand même formidable. Hein. On a quand même rarement vu ça. La deuxième chose, c'est que vous avez vu que quelqu'un intégrait la commission, un député qui s'appelle Masséglia. C'est ce député qui a fait voter un amendement au budget pour que, pour aller vite, pour aller à l'essentiel, le budget de France Télévisions continue à augmenter. Voilà, en tout cas, qu'il ne soit pas coupé. On demande des efforts à tous les Français, mais en tout cas, France Télévisions n'en demande pas. Voilà. Et la troisième chose, c'est que on parle de documents, qui sont des documents qui nous ont été transmis par rapport à des gens qui ont été auditionnés par la commission d'enquête. Vous avez pu remarquer, quand même c'est flagrant, qu'ils sont tous en train de lire des notes, en train de lire leur écran, en train de tourner les pages et lire quelque chose qu'on leur a préparé à l'avance. Alors nous, on tient ça effectivement de quelqu'un qui a effectivement participé à cette commission d'enquête. Donc en gros, on a monté une espèce de cellule institutionnelle, c'est comme ça qu'on peut appeler les choses, avec 3 membres de France Télévisions, un du secrétariat général, un de la présidence et un des services juridiques. On commence par faire une petite visioconférence avec les personnes qui sont convoqués, puisqu'on est convoqué. Après, on fait ça en présentiel, et en présentiel, on remet 3 petites choses. Une notice en expliquant que voilà comment il faut se comporter. Et puis, si jamais il devait y avoir un problème de juridique, le président est à peu près le seul à pouvoir actionner le levier juridique. Et donc, il est écrit en bas, mais le président nous est favorable. Bon, déjà, ça quand même, ça pose un problème, ça. La deuxième chose, c'est que vous avez, avec ça, une espèce de lettre de cadrage, note de cadrage, je pense que vous l'avez vu, où il est expliqué plein de choses. Voilà comment il faut que vous procédiez. En gros, c'est un peu les éléments de langage. Alors, surtout, si vous ne savez pas, vous dites, on vous transmettra, on vous l'enverra, ou alors, je n'ai pas la réponse là, mais on vous la fera parvenir. Comme ça, ça fait gagner du temps. Ou alors, comme on dit assez souvent, c'est pas à ma connaissance. Ça, c'est le leitmotiv, pas à ma connaissance. Et puis, vous avez avec ça une liste des 31 membres de la commission, donc le nouveau qui vient d'intégrer, puisqu'il y en a un qui est parti. Donc, ce nouveau qui vient d'intégrer, c'est pas moi qui ai fait le communiqué, dit, moi, j'intègre la commission, mais de toute façon, je voterai contre la publication de son rapport. Il s'appelle Masséglia. Donc, vous avez quelqu'un qui intègre une commission et qui dit, dès le départ, je voterai contre son rapport. Voilà. Et dans le document où il y a les 31 noms des députés, vous avez une petite note où il y a marqué 12 d'entre eux ont voté l'amendement Masséglia, donc forcément, donc ils nous sont favorables, et puis 6 autres que nous connaissons bien. Donc 6 et 12, ça fait 18. Vous imaginez si les 18 sur 31 se mettent en œuvre, se mettent dans l'idée d'annuler la commission, ils le feront forcément à la majorité. C'est assez incroyable, hein, c'est assez incroyable. On est, je me demande où on est d'ailleurs.
Oui, c'est assez effarant. Alors c'est exactement donc grâce à cette note que vous nous avez envoyée, qu'on a pu en parler à notre antenne, s'interroger. Et il faut savoir d'ailleurs que Jérémy Patrieletus lui-même nous a accusé de propager des fake news sur les réseaux sociaux. Voilà, il nous a écrit « Ça suffit les fake news, laissez la commission d'enquête faire son travail, achever ses auditions et le rapporteur écrire son rapport ». Donc on va l'inviter évidemment à nous envoyer des preuves, puisqu'accuser un média de répandre des fake news, c'est quand même grave. Mais bon, ce que vous nous expliquez, a priori Jean-Jacques Cordival, c'est que c'est surtout la défense primaire de quelqu'un qui voit étaler au grand jour leurs méfaits en réalité, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, qu'il faut appeler leur comportement, et donc que ce soit dans le fonctionnement de France TV, mais même dans le fonctionnement même de cette commission d'enquête. Une fois de plus, les Français assistent à cela de façon un peu consternée.
Écoutez, je ne sais pas si vous avez vu l'intégralité de l'audition à laquelle nous avons participé mercredi dernier.
Une bonne partie.
Mais, oui, voilà. À un moment, vous avez une question de la députée socialiste Aïda Aïdadze au sujet de ce déplacement à Cannes. Puis d'un seul coup, moi j'explique que nous, on répond spontanément aux questions qu'on nous pose, on n'a pas de papier, on n'a pas de notes, on n'a rien, on fait ça spontanément. Et je suis étonné, puisque c'est ce que je viens de vous expliquer, qu'une cellule... on va dire institutionnel, prépare les gens, parce que là, il n'y a plus aucune sincérité, il n'y a plus rien, puis chacun dit ce qu'il veut. Et elle me dit, mais monsieur, elle le dit en pleine commission, mais monsieur, à chaque commission d'enquête, on envoie les questions avant. Vous auriez dû voir la tête de Charles Alloncle, qui était à 11h, presque en face de moi, enfin 11h, c'est pas tout à fait en face de moi, il était interloqué en disant « Mais comment on envoie les questions avant ?» Alors, si on envoie les questions avant, si on a tout avant, c'est pas la peine de faire une commission d'enquête, c'est une mascarade. Moi, je veux bien qu'on dise... Encore une fois, ça a été dit en commission par la députée socialiste. Alors, donc, encore une fois, si on envoie les questions avant, c'est pas la peine de faire une commission d'enquête. On demande aux gens « Écrivez-nous un petit papier, puis à la limite, on l'écrira pour vous, puis voilà, on fera le job. » Si vous voulez... certains, vous avez compris, dans les 12, peut-être dans les 18, crient au scandale en disant le rapporteur, encore une fois, poursuit des ambitions politiques qui ne sont pas les nôtres, on doit lutter contre les extrêmes, etc. etc. Mais ce n'est pas ça le sujet, c'est-à-dire que quand on pose des questions, quel que soit le parti duquel on vient, on pose des questions. Nous, on a clairement dit dans cette commission d'enquête, c'était clair, on est pour les salariés et contre la privatisation. C'est assez simple, on veut un service public fort, mais pas un service public tel qu'il est aujourd'hui. C'est comme vous l'avez dit, une bande de copains, une bande de coquins, c'est le monde de l'entre-soi. Avec un budget, mais vous l'avez compris, vous avez 2,5 milliards à peu de choses près, donc ça fait 5 parts de camembert, vous prenez un camembert, vous avez des parts à 500 millions chacune, vous avez une part pour l'intendance, deux parts pour les salaires, puisque la Cour des comptes dit que lorsque Ernotte est arrivée, elle était à 894 millions d'euros. Aujourd'hui, on arrive au milliard. Rapport de l'Inspection générale des finances, là, pour le compte, en 2024. Et on arrive au milliard avec 2300 personnes de moins. Je ne sais pas comment c'est possible, ça. Et puis, une situation totalement dégradée, puisque les 81 millions dont on vous parle en négatif, c'est 81 millions du groupe, c'est moins 81 millions au niveau du groupe. Au niveau de France Télévisions et ça, c'est moins 256 millions en 2024 et moins 290 en 2025. Est-ce que vous imaginez le désastre, la catastrophe? Et avec un capital social de 294 millions qu'elle a fait fondre comme neige au soleil puisqu'elle a pioché dedans. Et elle a pioché dedans en disant « c'est pas normal, on nous donne jamais assez d'argent ». Et en 2023, l'État réinjecte, recapitalise l'entreprise à hauteur de 32 millions déjà. Donc vous imaginez, avec des prêts qui sont quasiment à hauteur de 70 millions, des prêts ça se rembourse. On en est là, on est dans une situation où une entreprise normale serait en faillite. Voilà. Mais on vous dit, France Télévisions n'est pas une entreprise normale puisque c'est une entreprise publique. Cela dit, c'est une entreprise publique, mais de droit privé. C'est-à-dire qu'elle a exactement les mêmes obligations qu'une entreprise normale. C'est-à-dire que quand on voit qu'on est en déficit, eh bien, on doit saisir son conseil d'administration, on doit faire les choses nécessaires dans les 4 mois. La Cour des comptes a dit dernièrement, de 2017 à 2024, et donc 2025, mais elle arrêtait son rapport en 2024, le déficit est cumulé, il n'a cessé d'augmenter. Donc 81 millions en moins au niveau du groupe, 290 aujourd'hui en moins au niveau de l'entreprise. C'est énorme.
Et ce que vous expliquez, Jean-Jacques Cordival, en tout cas vous avez de sérieuses raisons de penser que si Delphine Ernotte peut se maintenir justement dans ce système qui est défaillant et qui aurait conduit n'importe quelle entreprise à remettre en question sa direction, eh bien voilà, vous supposez qu'a priori il y aurait eu usage d'artifices comptables en quelque sorte. Delphine Ernotte pourrait avoir maquillé les comptes et puis la façon dont l'argent circulait pour pouvoir s'en sortir et puis essayer de mettre encore une fois ses erreurs sous le tapis.
Vous avez dit le mot « artifice comptable ». C'est exactement la formulation qu'utilise l'ARCOM dans son dernier rapport. artifice comptable. L'ARCOM écrit que Delphine Ernotte a eu recours à des artifices comptables. Fermez les guillemets. Donc, il y a un moment ou un autre, je citais à la commission d'enquête une députée socialiste qui s'appelle Martine Martinel, qui a été en charge de l'audiovisuel pendant de nombreuses années, qui était une femme formidable. Elle n'est plus députée, mais elle est toujours aussi formidable, ça n'a pas changé. Elle avait dénoncé à l'époque déjà, alors on n'était pas sur l'affaire Ernotte, mais elle dénonçait des comptes insincères. On peut pas dire pendant 10 ans, faire des communiqués pendant 10 ans, ah mais on est à l'équilibre, voilà. Et puis découvrir un rapport de la Cour des comptes qui dit que le déficit cumulé au niveau, je le rappelle, au niveau du groupe, c'est moins 81, et au niveau de l'entreprise, moins 290. C'est pas possible. Moi, j'ai fait maths à l'école, j'ai fait maths physique au niveau du bac. Je ne comprends pas comment on peut raconter des sornettes pareilles. Donc, à un moment, chacun prendra ses responsabilités. Mais l'État, de la même façon, parce que l'État a laissé faire. Il y a au conseil d'administration de France Télévisions, il y a des gens qui sont nommés par l'État. Alors, soit on ne leur a pas dit les choses telles qu'elles devaient être dites, et là c'est extrêmement grave, mais il faut savoir, et vous le savez sûrement, que l'intégralité des administrateurs sont co-responsables des actions à France Télévisions. Ils sont co-responsables, pénalement, juridiquement.
Mmh. Oh, j'ai été très mauvaise en maths, mais tout ce que vous me dites fait quand même sens, donc il ne faut pas, à mon avis, être ingénieur pour comprendre qu'effectivement, il y a des problèmes dans les calculs. Ce qui est dingue, par ailleurs, Jean-Jacques Cordival, c'est qu'encore une fois, qu'il y ait des problèmes de gestion, des erreurs, ça peut arriver. Mais en l'occurrence, Delphine Ernotte, puisqu'elle avait connaissance de ces problèmes de gestion, elle aurait eu toute la latitude pour pouvoir redresser la barre, puisqu'encore une fois, les dépenses faramineuses qui sont celles de France Télévisions, on ne peut pas vraiment dire que ce soit des dépenses liées au fonctionnement, ce ne sont pas des dépenses vitales. On parle de restaurants qui sont privatisés, on parle de paniers repas pendant le Covid, alors que, encore une fois, quand on fait le parallèle avec la situation des Français, il y a de quoi être estomaqué. C'est finalement du luxe qui a été entretenu pendant de nombreuses années, là où en fait, en se contentant de fonctionner comme une entreprise normale, hein, il ne s'agissait pas de réduire en esclavage tous les salariés, on aurait pu peut-être se retrouver à nouveau dans une entreprise qui fonctionne normalement et qui surtout utilise l'argent des Français à des fins plus correctes.
Mais vous vous rendez compte, c'est une entreprise publique, donc elle devrait être exemplaire, l'entreprise publique. À chaque fois, elle vous sort des communiqués en disant chaque euro dépensé doit avoir sa justification. Pourquoi on en est là? En 2015, lorsqu'elle est auditionnée par le CSA, c'est encore le CSA de l'époque, encore une fois avec cette plainte qu'on a déposée, bon, elle explique qu'elle va mettre en place une comptabilité analytique. Qu'est-ce que c'est qu'une comptabilité analytique? C'est le détail de chaque poste financier. Donc on vous détaille tout, on sait exactement là où telle et telle chose est dépensée. En 2016, vous avez un premier rapport de la Cour des comptes qui dit la situation est celle d'une impasse financière. Moi, je parle français, impasse, c'est qu'on n'arrive pas à en sortir. Voilà, il faut absolument mettre en place cette comptabilité analytique que vous avez indiqué vouloir mettre en œuvre. Très bien. 5 ans se passent, on est en 2020, elle recandidate, si on peut appeler ça comme ça, elle est reparachutée à nouveau. Mais lors de son audition, elle dit « je vais mettre en place une comptabilité analytique ». Vous vous dites « il y a un problème ». Elle a dit qu'elle allait le mettre en place il y a 5 ans. Pourquoi l'ARCOM? Alors, ce n'était pas l'ARCOM à l'époque, mais le CSA ne lui dit pas « mais madame, vous ne l'avez pas mise en place, bon, on va circuler, rien à voir ». 2025, je vais vous poser une colle, devinez ce qu'elle dit dans son nouveau projet. Je vais mettre en place une comptabilité analytique. Donc, on parle de panier repas, d'événementiel, de choses comme ça, etc. Mais tout ça, c'est mélangé. On a mélangé ça avec les tournages des salariés, les départs en mission et autres. Donc, on n'a pas le détail de tout ça. Alors, forcément, ça fait un poste important. C'est plusieurs millions. Et après, on vous dit, ah, mais ça coûte cher. Oui, mais d'accord, mais on a tout mélangé. Donc, on ne fait pas le détail entre ce qui est, encore une fois, des tournages, ce qui est nécessaire pour l'activité des salariés, et puis ce qui ne l'est pas, ce qui est du fait des événements, des choses comme ça, des projections, on invite des gens ici ou là, etc. Ils sont tout le temps en train de faire des petites sauteries. C'est ça qui est invraisemblable.
Oui. Et puis, encore une fois, cautionné par les personnes qui nous gouvernent, puisque vous l'avez dit, ils sont d'une façon ou d'une autre co-responsables de la façon dont France Télévisions fonctionne, des gens qui sont nommés à leur tête. Il y avait d'ailleurs, au moment de la nomination de Delphine Ernotte, quelques questions à ce propos aussi, et notamment des soutiens plus ou moins affirmés de la part de François Hollande, de mémoire. Là encore, ça pose un tas de questions.
Mais bien sûr, à l'époque, vous avez un des membres du CSA, ça figure dans le dossier judiciaire qu'on avait à l'époque. Vous avez Nicolas Abou, qui est l'un des membres du CSA, qu'il témoigne. Hein, il dit « j'ai jamais vu ça, la juge ». Il dit « c'est invraisemblable ». Et il intervient en disant « Schrammeck a posé une question à Delphine Ernotte pour finalement emporter son élection. Quelle est la différence entre un médecin et un enseignant ?» Je ne sais pas si vous savez, moi j'aurais jamais su répondre à ça, vous rendez compte. C'est vachement, vachement dur comme question. Voilà. Donc on en est là, c'est grave, oui, bien sûr. Et l'État, encore une fois, fut-il responsable, il n'est pas que responsable. Il y a tout un tas d'errements, il y a tout un tas de manquements qui ont été faits à France Télévisions sans que jamais personne lève le petit doigt. Et vous avez vu, je vous l'ai dit, en 2023, recapitalisation à hauteur de 32 millions. On ne peut pas dire que l'État n'est pas intervenu, il est déjà intervenu. 32 millions de l'argent des Français.
Oui. Et... Ce qui est frappant, Jean-Jacques Cordival, c'est qu'on dépasse les questions de clivage politique. Vous l'avez dit, même l'ARCOM en fait se rallie à votre témoignage sur certains points. L'ARCOM elle-même dénonce des problèmes dans la nomination de Delphine Ernotte. On n'est plus dans un combat politique.
Si vous voulez, à un moment il faut se poser la question. Effectivement, on vous dit. Je vais vous le refaire, moi, président de la République, je n'interviendrai pas sur la nomination des PDG de l'audiovisuel public. La première chose qui est faite, c'est exactement l'inverse, c'est l'intervention. Ça fait maintenant, c'est la troisième fois qu'elle est reparachutée. Elle a été parachutée une première fois, puis reparachutée une deuxième, puisqu'on peut imaginer que la première fois, elle l'a été. Voilà. On en est là aujourd'hui. Donc, on ne peut pas, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, tous les manquements, toutes les dérives qu'il y a à France Télévisions qui ont conduit à cette situation, c'est pas moi qui la donne, c'est la Cour des comptes, c'est l'Inspection Générale des Finances, c'est même l'ARCOM. Bon, mais ça veut dire quoi quand ces choses-là arrivent? Par exemple, quand il y a le rapport de la Cour des comptes qui sort, Delphine Ernotte réunit ses cadres et elle leur explique, je vais faire une citation, que c'est du bullshit. Le terme, il est là, bullshit. Ça veut dire que c'est, vous avez compris comme moi, bullshit, c'est un paquet de crottes, un paquet de merde. Bon, et elle dit à ses cadres, oh, puis on ne comprend pas toutes les réactions derrière, c'est du shitstorm, c'est une tempête de merde, c'est-à-dire un peu une tempête. Je ne fais que traduire, hein. Voilà. Dire ça à ses cadres, alors que l'Inspection Générale des Finances et la Cour des Comptes ont rendu des rapports. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les instances de contrôle de la République ne servent à rien, ou on les considère comme on est en train de miner la République avec des raisonnements comme ça. Et elle pond un vadémécum de 8 pages en interne pour dire voilà comment il faut voir les choses, voilà comment il faut les présenter, et voilà les éléments de langage. Et elle va devant la représentation nationale et elle débite à chaque fois les âneries qu'on peut sortir. Parce que, voilà. Et à chaque fois, la représentation nationale dit « Ah, madame, merci, merci de votre intervention, on a tout compris ». Moi, je ne suis pas député, mais je me demande de temps en temps s'ils ont vraiment compris ce qu'ils entendent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'entendre ça. Ça, c'est sûr. Voilà. Je vais prendre l'exemple de Salto. Vous vous souvenez, Salto?
Oui.
Cette plateforme de streaming, ça devait concurrencer Netflix en 2 ans et demi. Elle est dissoute. Dissoute. Voilà, liquidée. C'est fini, on n'en parle plus. Ça a coûté 90 millions pour la partie France Télévisions. Ça a coûté 90 millions aux Français. Vous prenez 90 millions et vous les jetez dans une poubelle. Voilà. Oui. Et bien ça, c'est quand même pas la faute de l'État. Il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. Alors après, on vous dit, non mais c'est à part. Et non, c'est pas à part. C'est dans le budget global. C'est pas à part. Et donc, les déficits aujourd'hui sont tels qu'ils sont. On est dans une situation de faillite. Et c'est clair, et ce n'est pas aux salariés, encore une fois, d'essuyer les pots cassés. Ce n'est pas eux qui doivent être la variable d'ajustement. Quand on dit les salariés, ils touchent 7 000 euros en moyenne par mois, c'est totalement faux. Pour faire une moyenne comme ça, il faut qu'on ait des salaires très très hauts. Et la Cour des comptes pointe les 30 plus gros salaires entre 250 et 300 000 euros et les suivants autour de 100 000. Bon, nous, on a fait un calcul. Si vous prenez les 50 plus gros salaires à France Télévisions, ça fait à peu près, hein, je le dis bien, le salaire d'un quart des députés sur un an. 50 plus gros salaires, le salaire un quart des 577. Vous n'avez qu'à faire le calcul, vous allez voir, c'est absolument insensé. Donc forcément, quand vous avez des salaires énormes, les gens qui sont à 3 000 euros ou 2 500, il y en a beaucoup à France Télévisions qui sont dans ces eaux-là, c'est pas du tout, c'est des salaires tout à fait normaux. Bah, quand vous avez des salaires à 250 000 ou 300 000 euros, commencez par le salaire d'Ernaut qui est à 400 000 euros et qui vient en plus, vu la situation, de se faire verser une prime de près de 80 000 euros, c'est formidable. Dans le privé, Les directeurs généraux dans le privé renoncent à une telle prime quand l'entreprise va mal. On me rappelait un PDG d'entreprise, c'est pas en France, c'est aux États-Unis, mais qui dit, moi, mon salaire, ça sera $1 pendant un an, et puis après, on verra. Bon, là, on lui donne une prime de 80 000 euros, alors que l'État dans lequel est le groupe n'aurait même pas dû, on lui aurait même pas dû lui donner un centime. Voilà où on en est. C'est extrêmement grave. Et alors, après, on dit, bah, les salariés, c'est pas aux salariés de payer les pots cassés. Les salariés, ils bossent, ils ont envie de bosser et ils en ont ras-le-bol. Mais je vous le dis, parce qu'on les voit tous les jours, ils en ont ras-le-bol de cette situation. La seule chose aujourd'hui, c'est que Delphine Ernotte fasse comme la présidente du Louvre.
Oui, bah voilà. Ça peut être clair. J'espère qu'elle entend vos conseils, Jean-Jacques Cordivet.
Je pense bien.
En tout cas, on est écouté, puisqu'encore une fois, Jérémy Patrilétus lui-même réagissait au décryptage de notre journaliste. Donc, écoutez, si ça se trouve, oui, ça reviendra aux oreilles de Delphine Ernotte. Peut-être qu'elle en prendra bonne note. Ça m'étonnerait, mais bon. Merci d'être avec nous, Jean-Jacques Cordival. Merci de rappeler aussi la façon dont fonctionne France TV. C'est très intéressant ce que vous nous dites sur ces salariés qui subissent la situation. Effectivement, il faut probablement les distinguer du petit club privé qui orbite autour de Delphine Ernotte. On va y revenir dans quelques instants. Pour le moment, une chronique de Richard de Sèze. Et puis comme ça, on terminera la discussion tous les trois et avec les auditeurs qui peuvent poser des questions en direct. N'hésitez pas, chers auditeurs.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Bonjour Richard.
Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Enfin, compatriotes tout court parce que vous êtes beaucoup à ne pas mettre cher, et je parle même pas de Gabriel Attal, je parle de tous ceux qui ne votent pas les lois que je mitonne, ou de tous ceux qui ont le culot de voter pour les extrêmes, c'est-à-dire la majorité des Français. Enfin bref. Chers compatriotes, compatriotes, ça veut dire qu'on partage la même patrie, mais ce mot rance charrie tous les relents du nationalisme le plus moisi, et la France est bien trop grande pour se limiter à ses frontières, comme dit Hugo. Ouais, je cite Victor Hugo parce que l'autre jour j'avais Pablo Neruda posé sur mon bureau, donc je suis un président poète, je tiens à vous le dire. Notre vraie patrie, c'est l'Union Européenne. Président de la République Française, ça veut dire gouverneur général de la région France. Hein, moi aussi, j'ai une certaine idée de la France. Qu'est-ce que je vous disais en mars 2025 c'est une dernière fois que je vous ai parlé. La France ne suivra qu'un cap, celui de la volonté pour la paix et la liberté, fidèle en cela à son histoire et à ses principes. Oui, c'est ce en quoi nous croyons pour notre sécurité, et c'est ce en quoi nous croyons aussi pour défendre la démocratie. Une certaine idée de la vérité. J'aime bien dire qu'il y a une certaine idée de la vérité, parce que ça me permet de m'arranger parfois un peu avec la vérité. Une certaine idée d'une recherche libre, du respect de nos sociétés, une certaine idée de la liberté d'expression. Vous savez, free speech is bullshit, qui n'est pas autour des discours de haine. Une certaine idée de l'humanisme. C'est pour cela que nous portons et qui se joue. Notre Europe possède la force économique, la puissance et les talents pour être à la hauteur de cette époque. Voilà, c'est clair. Je pars de la France, j'arrive à l'Europe. Bon, voilà. Enfin bref. Chers compatriotes, je tenais à vous parler solennellement ce soir parce que cela faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Je tenais à vous parler parce que personne ne m'a tenu au courant de rien et je pense que ça vous a chagriné autant que moi. Vous êtes quand même encore 21% à considérer que je suis un bon président, et c'est à vous que je m'adresse en priorité. Les autres, les 79% de Gaulois réfractaires, les 10 minutes du bulbe, je suis en train de leur mitonner 2 ou 3 lois sur la liberté d'expression qui vont leur faire comprendre avec quel humanisme je me chauffe. Donc dans quelques mois, le sous-marin nucléaire de lanceur de décrets, le cornu téméraire, qui est dans les coulisses, prendra la mer avec l'ensemble des hauts fonctionnaires que j'ai placés à tous les postes qui permettent de verrouiller la vie démocratique de ce pays. Il disparaîtra dans une discrétion absolue et jouera pleinement dans plus les profondeurs son rôle de gardien ultime de ma liberté d'action et de votre dépendance. Mais je m'égare. Chers assujettis sociaux, comme je l'ai en effet déclaré le 28 février, les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé de frapper l'Iran ces dernières heures. La France n'a été ni prévenue ni impliquée, tout comme d'ailleurs l'ensemble des pays ou la région et nos alliés. Voilà, on sert à rien, moi le premier. C'est pour ça que j'ai tout de suite dit qu'il fallait une réunion exceptionnelle du Conseil de sécurité des Nations Unies et que nous devons multiplier les initiatives pour que la question se règle par la voie diplomatique, car nul ne peut penser que la question du nucléaire iranien, de l'activité balistique, des déstabilisations régionales se régleront simplement par des frappes. Bon bah, Trump et Netanyahou ont l'air de penser que les frappes servent quand même à résoudre, et d'ailleurs ceux qui sont annihilés par les frappes ont tendance à leur donner raison. D'habitude, je vous explique que j'ai appelé Donald, Benjamin, Vladimir et les autres pour leur expliquer comment faire, mais là, j'ai même pas fait semblant. Non seulement ils ne m'ont pas appelé, mais en plus, ils continuent de frapper comme des sourds, alors que j'ai dit hier que ça ne servait à rien. Je vous l'ai même redit hier. Dans ce contexte, avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, nous avons clairement dit qu'un arrêt au plus vite des frappes est souhaitable et qu'une paix durable dans la région ne sera que par la reprise de négociations diplomatiques. Eh bien, cette nuit, l'armée de l'air israélienne, guidée par les services de renseignement, a achevé une nouvelle vague de frappes visant les centres de commandement du régime terroriste iranien à travers Téhéran, a fait savoir son armée dans un communiqué, précisant avoir frappé des dizaines de cibles. Dans le cadre de ces frappes, l'armée a largué des dizaines de munitions sur des centres de commandement de la sécurité intérieure et l'armée a lancé une large vague de frappes sur l'Iran. Alors voilà, moi je parle, je dis que ça sert à rien et les gens ils frappent quand même. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire? Eh bien, avec cet esprit de cohérence qui m'anime et qui m'animera toujours, je tiens à le dire, face à cette situation instable et aux incertitudes des jours à venir, j'ai diplomatiquement donné ordre au porte-avions Charles de Gaulle, ses moyens aériens, son escorte de frégates, de faire route vers la Méditerranée. Je ne sais pas encore s'ils frapperont ou s'ils ne frapperont pas. Hein. Je pourrais décider en même temps, d'ailleurs, de frapper et de ne pas frapper. C'est ce qu'on appelle la stratégie Schrödinger. J'en ai parlé avec mon état-major de fin tacticien, ceux qui m'avaient conseillé de dissoudre. Là, ils sont encore en train de réfléchir, je vous tiendrai au courant. Mais alors, pourquoi diable envoyer le Charles de Gaulle alors que je dis que les frappes ne servent à rien? C'est que, chers résidents sur le sol français, la véritable tragédie iranienne, c'est que le prix de l'essence va monter, que le détroit d'Ormuz est fermé et donc que le commerce international va mal. Ça va mal aussi au Liban, bombardé par Israël au mépris du droit international. Mais je serai discret sur le sujet du Liban. Les dernières fois que j'en ai parlé, je n'ai eu aucun succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, il n'y a aucun influenceur français à Beyrouth, contrairement à Dubaï. Si l'essence augmente, vous ne serez pas content. Je vais être encore obligé de vous faire durement frapper par mes CRS et je vais perdre des points de popularité et tomber au niveau de Hollande. Vous serez d'accord avec moi, c'est pas possible. Donc, la flotte française cingle vers l'Iran et je prévois de me faire bientôt photographier avec les marins et les pilotes. Ça rassurera tout le monde. En plus d'envoyer un porte-avions, je vous ai affirmé hier que nous sommes à l'initiative pour bâtir une coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic dans ces voies maritimes essentielles à l'économie mondiale. C'est ce que nous avons su faire il y a plusieurs mois en mer Rouge, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui là-bas. Comme vous savez, chers Européens de cœur et d'adoption, je suis maître dans l'art de la coalition internationale, comme par exemple la coalition des volontaires pour l'Ukraine. Certains me demandent si c'est efficace, ma réponse est très claire, c'est bien simple, nous ne sommes absolument pas partie prenante des actuelles négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Tout est organisé par les États-Unis, au profit des États-Unis, et c'est nous qu'on paiera la note. À cause des combats en cours, nous ne pourrons pas confirmer aujourd'hui que la rencontre aura lieu à Abu Dhabi, disait Volodymyr Zelensky hier, entre le 5 et le 8 mars, mais personne ne l'a annulé. Voilà, donc il y a des frappes qui ne servent à rien, sauf peut-être à annuler une réunion à Abu Dhabi, mais rassurez-vous, cette réunion aura quand même lieu. Si elle ne se tient pas à Abu Dhabi, elle se tiendra en Turquie ou en Suisse. Voilà, mais alors, moi j'ai proposé Saint-Denis, hein. J'ai dit Saint-Denis, j'ai organisé des initiatives politiques d'ampleur qui ont frappé les esprits. Olivier Véran, qui était le porte-parole de l'Élysée à l'époque, le porte-parole du gouvernement, s'était même félicité d'un processus inédit qui pourrait bien marquer l'histoire. Donc j'ai dit voilà, bah, si vous ne pouvez pas faire ça à Abu Dhabi, faites ça à Saint-Denis. Ils n'en ont pas voulu, donc ils continuent à faire cavalier seul de leur côté. Et voilà, chers contribuables, je suis absolument navré de vous dire que je ne sers à rien. Personne ne me prévient, mais que Charles de Gaulle est en train de cingler vers l'Iran et que bientôt, je pourrai à nouveau vous parler pour vous dire à quel point non seulement je ne sers à rien, mais à quel point le monde entier en est témoin. Vive la France, vive la République.
Merci Richard de Sèze. Je pense que vous devriez vous présenter aux prochaines élections.
Je tiens le discours, à mon avis.
Vous avez un potentiel qui est assez évident. Ça nous apparaît ce matin. Merci et on poursuit. Merci, chers auditeurs, d'être avec nous également. On va continuer dans quelques secondes avec Jean-Jacques Cordival que nous recevons depuis 7h30 quasiment. Je vous invite à retrouver le début de cet entretien sur YouTube dans le courant de la journée. On est en train de dévoiler grâce à lui toute la façon dont fonctionne France Télévisions. Ça vient confirmer tout ce travail que Charles Alloncle effectue et puis il en avait lui-même déjà parlé à notre antenne, donc des entretiens qui sont également à retrouver sur notre chaîne. Je vous rappelle que si vous voulez qu'on puisse continuer ce travail, eh bien, nous comptons sur votre générosité puisque contrairement à France Télévisions, eh bien, vous êtes libre de nous financer ou pas et donc de faire survivre la radio.
Par exemple, l'invité de ce matin ou la séquence que vous venez d'entendre, ce n'est pas forcément le type de programme que vous entendrez sur le service public. Il faut donc soutenir les médias alternatifs d'une manière générale, mais en particulier Radio Courtoisie qui ne vit que grâce à ceux qui l'écoutent. Pour faire un don, en fonction de vos moyens, rendez-vous sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr pour faire un don en ligne. Un grand merci d'avance.
Promis, on ne se paiera pas trop de restaurants avec. On poursuit donc avec Jean-Jacques Cordival et Richard De Sèze.
Ligne droite.
Nous avons de la visite.
Le face-à-face.
Richard De Sèze, donc nous sommes avec Jean-Jacques Cordival, le secrétaire général du syndicat des personnels de la communication et de l'audiovisuel, qui explique comment fonctionne France Télévisions en interne, qui dénonce la nomination de Delphine Ernotte, et puis qui tout récemment révélé que le rapport de cette commission d'enquête pourrait ne jamais voir le jour, si jamais les amis de Delphine Ernotte choisissent de voter contre sa publication.
Alors oui, je suis allé sur votre blog regarder le document que vous avez publié. D'ailleurs, bah, bravo de cette transparence, puisque c'est une vertu qui est célébrée à la tête de l'Élysée, à la tête de France Télévisions. Mais enfin, là, c'est un exercice de transparence absolue. Le fait qu'on soit déjà en train de prévoir dans France Télévisions que le rapport ne sorte pas, a-t-il étonné les gens de France Télévisions ? A-t-il scandalisé un certain nombre du personnel ? Ou au contraire, chacun s'est dit satisfait que tout puisse enfin être mis sous l'été noir ?
Non, le personnel, il est scandalisé. Quand vous allez à France Télévisions, la première des réactions, c'est...
Vous n'aviez pas posé cette question ?
Comment ?
Non, rien. Non, excusez-moi.
Non. Je dis, quand vous allez à France Télévisions, la plupart des gens vous disent « Mais quand est-ce que ça va s'arrêter, tout ça ?» Parce que nous, derrière, on trinque, c'est nous qui trinquons. Donc, si vous voulez, ce document dont on parle, on peut vous raconter que c'est un fake. Vous imaginez qu'on va mettre un document qui est un fake sur notre blog, sur le blog CGC ? C'est une blague. Ce document, il est issu, encore une fois, de l'audition d'un de ceux qui ont été convoqués, qui forcément a été très mécontent de voir comment les choses se passaient, qui a eu une visio, et un premier jet en visio, une heure en visio, après on lui fait en présentiel le topo, puis après on lui remet les documents en disant voilà ce que vous allez dire, voilà comment vous allez procéder, voilà comment vous allez faire, avec cette notice dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis surtout cette note de cadrage, voilà, sur les éléments de langage, ce qu'il va falloir dire. Encore une fois, vous avez tous vu, je le redis, ils lisent des papiers ou alors ils sont sur leur écran. On leur a écrit à l'avance. Et j'ai été choqué, je le répète, quand j'ai entendu la députée socialiste la semaine dernière expliquer en commission, suite à une question qui avait été posée, mais enfin, monsieur, les questions, elles sont envoyées à l'avance aux personnes qui sont auditionnées. Mais qu'est-ce que ça ? On est où là ? On envoie des questions à l'avance. Et oui, cette personne a été choquée de recevoir les questions à l'avance. Et on peut expliquer que 90% au moins de ce qui était dit dans la réunion préparatoire a été dit en commission. Et je suis bien convaincu que ce n'est pas Charles Alloncle qui envoie les questions. J'en suis intimement convaincu. Voilà. Vous savez, là, on vient de recevoir un document, ça c'est un scoop, on vient de recevoir un document après qu'on soit passé la semaine dernière à l'audition, daté du... Alors, on reçoit ce document, on est passé le 25 à 18h, on reçoit ce document le 28 à 22h29, c'est très précis, samedi dernier. On nous envoie un document de 3 pages avec 24 questions. Et quand vous lisez ce document, qui est d'ailleurs antidaté, je vois pas comment ça peut être autrement, un document avec la date du 20, c'est-à-dire 5 jours avant qu'on soit passé. Et on nous dit, vous avez 24 questions auxquelles vous allez répondre avant le 25 mars. Et quand vous lisez le document, vous vous dites, alors est-ce que Delphine Ernotte ceci ? Alors est-ce que pour Delphine Ernotte, est-ce que... En gros, quand vous lisez les questions, vous vous dites, mais c'est un plaidoyer pour Delphine Ernotte. Et en gros, on vous explique que finalement, si vous répondez correctement, bah, elle va pouvoir rester en place. Mais c'est une blague. Alors, on ne va pas répondre à ça. On a mis notre avocat sur le coup. Mais il y a un moment ou un autre, ce n'est pas possible. Avec deux dernières questions où on nous demande, encore une fois, l'avant-dernière, elle est somptueuse. On nous dit dans cette dernière question, la plainte que vous avez déposée pour le déplacement au Majestic, les 112 000 euros, etc., puisque ce n'est pas de l'argent public, on nous le dit, hein. Je rappelle que le judiciaire et l'exécutif sont distincts. Mais on nous dit à la fin, puisque ce n'est pas de l'argent public et qu'on vous l'a dit et on vous l'a répété, est-ce que vous n'avez pas l'intention de la retirer ? Est-ce qu'elle est toujours d'actualité ? Mais excusez-moi, est-ce que vous imaginez que des députés qui savent très bien quel est le partage entre l'exécutif, je le répète, et le judiciaire, viennent vous dire, on ne peut pas nous demander de nous exprimer sur nos plaintes dans un questionnaire envoyé soi-disant par l'Assemblée nationale ? Bon, donc on est là-dessus. Pour nous, c'est extrêmement grave. Voilà. C'est aussi grave que ça. D'ailleurs, on ne peut pas envoyer un document le 28 antidaté du 20. Ça n'existe pas. Avec toute une série de questions, le moment venu, on le publiera, mais c'est invraisemblable ce qui se passe. Voilà. Alors, si on a les questions avant, si derrière, on a un document antidaté pour faire des commentaires sur ce qu'on doit écrire, parce que ce n'est pas moi qui ai dit, je le répète, que la commission pourrait ne pas... produire son rapport, c'est bien M. Masseglia qui vient d'intégrer la commission, qui a fait un communiqué en disant « j'intègre la commission, mais de toute façon, j'appellerai à voter contre le rapport ». Il n'est même pas fait, mais voilà. En gros, la chose est la suivante, si M. Charles Lalonde, le rapporteur, fait un rapport un peu neutre, un peu mielleux, on pourrait le voter, il n'y a rien dedans. Si jamais ça dépasse un peu les bornes, ben non, on ne le votera pas. Je rappelle que M. Saint-Toul, qui était LFI, a fait un rapport sur les chaînes de la TNT. Tout le monde l'a laissé passer, ce rapport. Et pourtant, il était assez gratiné. Bon, donc, je suis atterré de voir ce qui se passe en ce moment.
Lorsque vous nous dites que le climat à France Télévisions est un peu éruptif, est-ce qu'il y a une cellule de crise psychologique qui a été mise en place ? Est-ce que ceux qui vénèrent Delphine Ernotte et son action peuvent venir s'épancher dans les bras de psychologues professionnels afin de critiquer la manière dont Charles Lalonde est en train de faire son travail ?
Alors, ceux qui vénèrent Delphine Ernotte, ils sont entre eux, puisque c'est le monde de l'entre-soi. Voilà, donc tout va bien. Les autres, c'est marche ou crève, à peu de choses près. Hein. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil, vous n'avez rien à dire. Je rappelle, on n'était pas loin. Je rappelle que certains avaient imaginé qu'on pouvait recréer l'ORTF et puis intégrer France Télévisions à un holding ou une holding, on peut dire les deux. Comme ça, on aurait mis toute la poussière sous le tapis. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, avec les questions que pose le rapporteur, ça ne serait jamais intervenu, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a un moment, ça suffit, c'est pas... Voilà. Alors, après, on vient vous dire... Moi, je l'ai entendu, je l'entends 20 000 fois. J'ai précisé, je le reprécise là, mais j'ai précisé lors du liminaire que j'étais opposé à la privatisation. J'ai expliqué que nous ne faisions pas de politique. Un syndicat, encore une fois, de par sa définition, ne fait pas de politique, vous le savez comme moi. Donc, on est apolitique, on ne va pas commencer à en faire. Mais le fait qu'on s'exprime et qu'on aille dans le sens des questions que pose Charles Lalonde, alors là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Mais c'est invraisemblable, on en est là. Je rappelle que c'est pas le blog CGC Média qui a lancé l'anathème, encore une fois, contre le groupe Bolloré et CNews. C'est Delphine Ernotte, dans une interview le 9 septembre dernier, dans un papier que Aude Dassonville, pour Le Monde, a publié. Donc il y a un moment, et c'est elle qui accuse, encore une fois, CNews et le groupe Bolloré d'être d'extrême droite et de ne pas. Mais ce n'est pas notre débat, nous. Ce n'est pas notre problème. On n'a rien à voir avec tout ça. Voilà. C'est pas du tout. Le problème pour nous, c'est les salariés des régions qui n'ont plus de boulot, les salariés de l'outre-mer qui courent après le travail. On a supprimé leur chaîne pour mettre quoi à la place ? Pour mettre une plateforme sur laquelle personne ne va. On est bien d'accord ? Donc, il y a un moment ou un autre, vous vous dites, mais ces gens-là, ils n'ont rien demandé à personne. Ils font leur boulot. Ils en ont de moins en moins. Et puis, il y a tout un petit groupe qui se goberge parce qu'il n'y a pas d'autre mot que se goberger. Voilà. Je parlais tout à l'heure des camemberts. Vous avez deux camemberts pour les programmes. C'est à peu près 1 milliard, les programmes. 970 millions pour être à peu près précis, en tout cas estimé. Voilà. Eh bien, dans cette part de programme, vous avez déjà trois boîtes, mais vous les connaissez comme moi. Together Media, donc le Vankim, donc en brut également, enfin brut, puisque c'est la même chose, Banijay et Media One. Bon, et ben ces trois boîtes-là, elles prennent déjà un bon tiers des programmes de France Télévisions. C'est quand même assez insensé. Vous avez une ministre, Roselyne Bachelot, qui était entendue par la commission, qui dit « Bon, mais c'est normal, c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus… » Si les salariés en interne n'ont pas les compétences, eh ben, il vaut mieux aller chercher à l'extérieur. Je vous assure que les salariés, d'ailleurs on l'a dit à la commission, les salariés ont été choqués d'entendre ça d'une ex-ministre de la Culture. C'est dramatique. Les salariés, ils demandent pas monts et merveilles, ils demandent à travailler, les salariés. Et on leur donne de moins en moins de boulot puisqu'on file tout à l'extérieur.
En fait, il y a quelque chose de fascinant dans l'audiovisuel public, c'est qu'il y a des compétences, il y a des compétences techniques, il y a des compétences éditoriales. Une fois de plus, on a réussi à bâtir une télévision française et une radio française sans forcément que le privé s'en mêle. Et là, comme d'habitude, exactement comme il y a des consultants de McKinsey et autres qui hantent les couloirs de l'Élysée et des ministères comme s'il n'y avait aucun haut fonctionnaire compétent, on nous explique qu'en fait, il y a une masse indifférenciée de salariés qui ne savent rien faire et qu'il y a des sages nommés par le gouvernement qui, eux, sont capables de faire travailler les gens véritablement compétents qui sont forcément en dehors des salariés puisque ces salariés, en fait, par principe, n'étant pas nommés par le pouvoir, n'étant pas choisis parmi les amis du pouvoir, eh bien, n'ont de fait aucune compétence, c'est-à-dire ne sont pas capables de bien relayer ce que veut le pouvoir.
Si vous voulez, on est totalement d'accord. On est d'accord sur le fait que c'est les salariés qui sont de toute façon les premiers visés. Je crois que depuis qu'elle est arrivée, on en est au quatrième ou cinquième plan de départ. Les gens s'en vont parce qu'ils en ont ras-le-bol. Vous voyez les gens aujourd'hui, il y en a qui se disent vivement qu'on soit en retraite parce qu'on n'en peut plus. Alors moi, j'ai quand même une petite pensée pour les plus jeunes, hein, ceux qui ont 30, 35 ans, 40 ans, etc. Les autres, ils ont toute une carrière à faire. Et on vient leur dire aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Cour des comptes, on vient leur dire que d'un trait de plume, leur entreprise pourrait être dissoute en fin d'année, parce que c'est cette année. Alors, après, on vous dit de l'autre côté, mais non, c'est une entreprise publique, on ne peut pas dissoudre une entreprise publique. Mais une entreprise publique qui est de droit privé, elle doit respecter les mêmes obligations légales qu'une entreprise, privée, tout simplement. Donc, moi, je ne vois pas en quoi… Je parlais la dernière fois des décrets TASCA, je ne sais pas si ça vous parle, mais les décrets TASCA, ils organisaient la production, il y avait une possibilité pour France 2, lorsque France 2 existait, d'avoir jusqu'à 50% avec des producteurs extérieurs, donc on pouvait faire 49% en interne, et France 3, c'était à peu près 75% en interne et jusqu'à 25% avec des producteurs extérieurs. Bon, on est d'accord, 49 et puis 25, à peu de choses près, pour l'une et l'autre. Quand il y a eu la disparition de France Télévisions pour une entreprise unique, on s'est retrouvé, les décrets TASCA n'existent plus puisqu'il n'y a pas d'entité juridique, mais déjà à l'époque, ils ne faisaient pas plus de 20%. C'était à peu près 20 et quelques pourcents de production interne. C'est-à-dire que plus ça a été, plus on a filé à des copains, à des boîtes extérieures. C'est invraisemblable, invraisemblable. Alors qu'effectivement, vous l'avez dit, les salariés veulent travailler. Ils ne demandent que ça. Et aujourd'hui, il y a des salariés, alors dans les régions, n'en parlons pas, dans les Outre-mer, les territoires d'Outre-mer, n'en parlons pas, ils ont de moins en moins de boulot. Et c'est pareil dans les territoires d'Outre-mer, c'est la même chose. On passe par des boîtes privées, et puis les boîtes privées, ça arrose un peu, puis comme ça, voilà, ils font tout. Donc les salariés, ils sont là, on leur dit qu'est-ce que… vous imaginez quand même la tête des salariés, ils en ont marre d'entendre ça. C'est pour ça que nous, on n'est pas là pour faire un discours politique, la politique, on laisse ça aux autres. On est là pour dire, voilà, comment on peut en arriver là aujourd'hui. C'est honteux, c'est honteux. Je rappelle qu'en 2017, il me semble bien que Emmanuel Macron disait que de la gouvernance de France Télévisions, c'est la honte de la République. Vous vous souvenez ? Pour quelque temps après dire « Ah bah oui, on va tout réunir dans une même holding. » Comme ça, je le répète, on aurait mis toute la poussière sous le tapis et on n'en parlait plus. Voilà. Et puis on se retrouvait dans une usine à gaz style ORTF qui a été dissoute en 1974. Ça date pas d'hier.
Jean-Jacques Cordival, on arrive à la fin de cet entretien. En deux mots, si jamais ce rapport ne peut pas voir le jour, on imagine quand même que, d'une certaine façon, cette commission d'enquête, elle ne laissera pas France Télévisions indemne. Vous avez aussi, de votre côté, déposé une plainte. Donc, quoi qu'il en soit, je pense que les auditeurs n'ont pas de souci à se faire. Quand bien même ce papier ne sortirait jamais, il y aura des effets.
Alors moi, je pense que ceux qui ont du souci à se faire, ce sont les députés qui vont voter si jamais ils le font. Ce sont les députés qui vont voter contre la publication de ce rapport. Parce que Ils ont beau ne pas penser que ça n'a pas d'effet, mais vous avez vu comment ça anime, comment ce débat anime la France tout entière. Ça, je crois que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, les tonnes de... C'est des gens aujourd'hui, dans leur circonscription, les votants dans leur circonscription leur disent « Continuez comme ça, voilà, on vous attend aux prochaines élections législatives, c'est pour bientôt. » Je pense que tous ceux, et on donnera le nom, hein, je pense que tous ceux qui auront voté contre la publication de ce rapport, à mon avis, ils ont du souci à se faire pour les prochaines élections législatives. Je le pense.
Et on s'arrangera pour savoir qui ils sont, ces députés qui voteront contre. Merci beaucoup Jean-Jacques Cordival d'avoir été avec nous, merci pour votre travail, merci d'oser prendre la parole et puis de dénoncer tout ça, puisque vous le dites, vous êtes la parole des salariés de France Télévisions, mais en fait je pense que vous êtes aussi dans le même temps celle de beaucoup de Français, par effet. Donc voilà, merci pour ça, et puis on ne manquera pas de vous réinviter en fonction de la façon dont évolue cette commission d'enquête.
Ah oui, avec plaisir.
Merci à vous aussi, Richard.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Lise-Lotte Dutreuil.
Chers auditeurs, il est 8h15. Merci d'être avec nous ce matin. Dans quelques instants, on retrouve Philippe Vardon pour sa chronique. Et puis Alain Pocard sera avec nous au micro de Richard de Cesse pour parler des municipales à Paris. Mais tout de suite, Maëlys Clauzel vous rappelle les titres de l'actualité.
Hier soir, aux Français, au quatrième jour de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran, ils jugent ces frappes contraires au droit international tout en estimant que la responsabilité première revient à Téhéran. Et toujours sur l'Iran, l'Assemblée des experts chargée de désigner le futur guide suprême iranien a été visée hier à Qom après une frappe attribuée à Israël et aux États-Unis. Après la mort d'Ali Khamenei, c'est désormais le cœur du mécanisme de succession du régime qui est frappé. Et pour les municipales, un sondage Ipsos place Emmanuel Grégoire comme futur maire de Paris avec 35% des intentions de vote devant Rachida Dati à 27, Sarah Knafo et Pierre-Yves Brunazel à 11,5, suivi de Sofia Chikirou à 10 et Thierry Mariani à 4.
Et on termine par les saints du jour.
Et les saints du jour, nous fêtons Saint Casimir et Saint Sadoc.
Merci Maëlys.
Ligne droite.
On poursuit avec la chronique de Philippe Vardon. Donc. Bonjour Philippe.
Bonjour Lise-Lotte. Alain. À la mosquée, ohé ohé. Ne vous moquez pas, parce que c'est bien sur cette variante de la célébrissime chanson de la Compagnie Créole que semblent zouker nombre d'élus locaux à l'approche des élections municipales. Alors il faut dire que le calendrier, lunaire en l'occurrence, fait bien ou mal les choses, hein, ça dépend selon comment vous voyez cela, puisque cette année, alors c'est quasiment une provocation, une incitation au clientélisme communautaire débridé, le ramadan a lieu du 17 février au 19 mars, en plein cœur de la campagne des municipales donc, et je peux vous annoncer, sans avoir trop de chances de me tromper, que ce sera un festival absolu pour la dernière rupture du jeûne. Ils fêteront donc l'Aïd el-Fitr, la célébration marquant la fin du ramadan le 19 mars prochain. À l'occasion de cette fête, les croyants se réunissent à la mosquée, prient, échangent des vœux, pâtisseries et cadeaux. Nous apprend ainsi le journal 20 minutes. Il a juste oublié de préciser qu'à cette occasion, ils verront aussi des élus se pointer à la mosquée, laissant pour l'occasion leur mocassin Weston à l'entrée. Oui, j'insiste sur ce détail parce que je trouve toujours particulièrement ridicule les images de ces élus en costard chaussettes. Non mais comprenez-les, Lise-Lotte, comment pourrait-il résister la grande soirée de l'Aïd el-Fitr à 3 jours du second tour des élections? On croirait presque à un cadeau divin. Attention, hein, parmi les élus ou candidats, il y en a aussi qui ont pris de l'avance. Citons par exemple le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan, ou le candidat centriste Jean-Michel Aulas à Lyon, aperçu à la grande mosquée de Villeurbanne, je cite... Les plus connus, mais ils sont loin d'être les seuls, je ne peux ainsi pas résister à la gourmandise d'évoquer le grotesque maire de Nanterre, Raphaël Adam, qui lui n'a pas hésité à se promener avec un camis, il a fait un cosplay en fait, à l'occasion d'un événement d'une association humanitaire islamique il y a quelques jours de cela. On aurait tort de croire que ce clientélisme communautaire, ethnique, religieux, appelons ça comme vous voulez, est l'apanage de la France insoumise uniquement. Il est néanmoins vrai qu'ils sont les seuls à en avoir fait une véritable stratégie globale avec une réelle réussite. À la présidentielle de 2022, 69% des électeurs musulmans avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon. Performance réitérée lors des élections européennes avec une liste LFI captant 62% des votes musulmans. Ce sont dans les deux cas des chiffres qui ne sont pas ceux de Philippe Vardon, mais du très sérieux institut IFOP. Il faut dire que côté LFI, on ne ménage pas sa peine pour aller chercher cet électorat. On se rappelle, il y a eu les manifs contre l'islamophobie, aux côtés des islamistes. Puis sont venues toutes les ambiguïtés sur l'attaque du 7 octobre, les diatribes antisémites au prétexte du soutien à Gaza. On a eu l'incroyable défense des frères musulmans à l'Assemblée nationale, lors du vote pour l'inscription de cette mouvance sur la liste européenne des organisations en lien avec le terrorisme. Je rappelle d'ailleurs que toute la gauche, tous les députés de gauche ont alors voté contre. Et ces derniers jours, nous voyons les députés LFI se muer en défenseurs du régime des mollahs iraniens, avec bien sûr en tête, vous l'avez deviné, Rima Hassan. Mais comme je l'ai dit, une fois redescendu au niveau local, et en particulier dans le cadre des élections municipales, ce sont des élus d'à peu près toutes les couleurs politiques qui oublient rapidement toute notion du bien commun et accessoirement de la dignité et partent chercher quelques précieux suffrages dans les mosquées. On voit ainsi de lamentables maires qui traitent les imams et les mosquées proches des frères musulmans comme s'ils avaient affaire finalement à une association de philatélistes, un club de boulistes. Et nous le constatons dans le cru 2026 des élections municipales, nous avons encore passé un cap. Si les listes communautaires sont encore rares, l'infiltration communautaire des listes est aussi devenue une réalité. Et c'est une infiltration, attention, avec les bonnes grâces des candidats, très contents de se retrouver avec des relais dans les communautés. Et c'est comme cela aussi qu'on se retrouve avec de véritables agents d'influence, liés par exemple au régime algérien ou turc, en bonne position dans ces élections. Car aujourd'hui, la présence massive de ces diasporas, toujours très liés à leur pays d'origine le plus souvent, pose, en plus des autres, un vrai problème de souveraineté. Pour être plus clair, chers auditeurs, dans certains secteurs, nous avons des communautés d'origine étrangère et donc potentiellement aussi des puissances étrangères qui peuvent jouer un rôle majeur dans ces élections. La réalité, elle est simple. C'est que la démographie est en train de rattraper notre démocratie. Mais comment en serait-il finalement autrement ? Citons Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro, auteur de « Nous vivons côte à côte », interrogé dans l'excellente revue « Écrit de Rome ». Que nous dit-il ? Les équilibres démographiques se sont brisés. À Épinay-sur-Seine, en 1968, la proportion des jeunes d'origine étrangère était de 12%. En 1999, ils sont 56,5%. Et dès 2005, les jeunes d'origine maghrébine, subsaharienne ou turque deviennent majoritaires dans la commune. Je le répète, la démographie s'impose à la démocratie. Le changement de peuple, bah, c'est forcément aussi un changement d'électeurs. D'ailleurs, je dois le reconnaître moi-même, j'ai souvent souri en entendant, vous savez, on entendait souvent dire ça, que la gauche finalement importait des électeurs à travers l'immigration. J'ai souri et j'avais tort. J'avais tort parce que nous devons comprendre ainsi que c'est aussi en matière électorale une course contre la montre qui est engagée à l'échelle des deux décennies à venir. Pour le dire encore plus clairement, nous devons devenir majoritaires électoralement, avant de devenir minoritaire sur des pans entiers du territoire et que nos équilibres politiques s'en trouvent absolument bouleversés. Mais une pièce a toujours deux faces. Cette immigration massive, bien sûr, elle fournit des bataillons électoraux à la gauche et l'extrême gauche, mais elle crée aussi un électrochoc salutaire chez nombre de nos compatriotes qui sont confrontés à la réalité de l'enfer diversitaire. Et oui, le réveil est lent, mais le réveil est là. Il est certes très tard, mais il n'est pas encore trop tard.
Merci Philippe Vardon pour cette chronique. Et effectivement, je pense que tous les auditeurs l'auront bien en tête au moment des prochaines municipales. On surveillera les scores des candidats et puis surtout voilà, la façon dont ça se répartit dans la population, la part d'immigrés représentée dans ces scores. Et on ne manquera pas de commenter ça avec vous. Merci.
À bientôt.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Ligne droite, débattons-en.
Et on poursuit avec Richard de Seize à nouveau et Alain Pocard. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous.
Bonjour madame, puisque
voilà.
vous êtes bien gentil avec moi, vous pourriez dire bonjour monsieur Pocard de Paris par exemple.
Et ben voilà, bonjour monsieur Pocard de Paris, bonjour
bravo,
Alain.
Bravo Richard de Seize.
Voilà, merci d'être avec nous, vous êtes écrivain, vous avez écrit des essais, vous avez écrit des livres d'histoire, vous êtes patron d'émissions sur Radio Courtoisie et surtout vous êtes parisien mais depuis toujours.
Je suis parigo.
Parigo même.
Voilà. J'ai même encore un peu l'accent de Paris. Voilà, alors je vais vous dire, vous avez eu la gentillesse de m'inviter parce que, bon, je suis les élections municipales de manière très distraite car on ne parle pas de la question fondamentale à Paris qui est celle de son esthétisme. Et que depuis que Monsieur Chirac a offert la ville de Paris aux socialistes avec Delanoë, les deux premières choses que Delaunay a faites en arrivant, c'est de supprimer la commission du Vieux-Paris pour la remplacer par une croupion, mais qui fait pas grand-chose, même s'il y a encore des gens de qualité à l'intérieur, y compris des gens de gauche, Contasso, comme moi, c'est toujours opposé au tour. Mais surtout, M. Delaunay a changé les règles d'urbanisme. C'est-à-dire que certaines choses étaient formellement interdites, mais maintenant, la mairie de Paris, par exemple, de Mme Hidalgo, entre autres choses criminelles, ne voulait pas que la cathédrale Alexandre Nevsky, qui se trouve près du pont de l'Alma, ait des bulbes, parce que c'est pas le style de Paris. Ben oui, chère madame, mais c'est le style de nos amis orthodoxes, voilà.
Et puis surtout, elle ne veut pas ça, mais à côté de ça, elle met des bancs absolument immondes autour du Panthéon.
Bancs, je m'en fous. Parce que les bancs, on les voit pas quand on est à la porte d'Auteuil ou quand on est à la porte de Clignancourt. Ce que je ne supporte pas, ce sont les tours d'inspiration très moderniste, hein, qui viennent de criminels du béton, des théoriciens comme Le Corbusier ou le Barreau. Le Bauhaus, c'est les boches protestants, oui. Voilà. Bon, et donc, alors, et d'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que le père de la mondialisation n'est pas Monsieur Le Corbusier ? Car dès les années 20, il écrit, écoutez bien, hein, je l'ai pas inventé, la même maison pour tous les pays et tous les climats.
C'était l'époque où il essayait de vendre désespérément aux communistes, puis aux nazis, l'ensemble de ces plans d'urbanisme absolument géniaux. Et non, il n'a pas réussi à le faire. Et heureusement, d'ailleurs, il avait aussi prévu d'ailleurs, de ravager Paris totalement avec avec un plan qui était mais aberrant.
Bah, il est réalisé en partie à la Défense, hein, c'est-à-dire les voitures passent en dessous, il y a une dalle, un petit peu dans le 15e aussi avec le front de Seine. Bon. Alors, je suis les aventures de nos gens qui se présentent à la mairie de Paris. Bon, je vous dirais qu'il y en a qui ne m'intéressent absolument pas. Bon. Mais je ne donne pas de nom, ça ne m'intéresse pas. Mais parmi ceux qui pourraient éventuellement être maires, il n'y en a pas un, je n'ai pas entendu, un seul qui dit il faut changer, revenir aux règles d'urbanisme d'avant. Et d'ailleurs, qui ont été même changées sans Delaunay, puisque Mitterrand faisait absolument ce qu'il voulait, avec l'horreur de la pyramide du Louvre, la catastrophe qu'est sa grande bibliothèque, où il suffit qu'un avion s'écrase sur une des tours pour que nous perdions le quart de notre mémoire imprimée, voilà. Donc j'attends, j'entends rien. Eh bien, je ne voterai pas pour quelques pays et quelques candidats qui soient, qui n'aura pas dit « nous allons revenir, il n'y aura plus de tours dans Paris, plus d'architecture agressive ». Voilà, c'est comme ça.
Alors, et c'est vrai que ces architectures agressives, elles ont fleuri. Vous parliez de la tour Triangle, par exemple, au parc des Portes de Versailles, mais on a aussi tous en tête la manière dont la Samaritaine a été saccagée et où la commission du Vieux-Paris avait malgré tout essayé de sauvegarder deux ou trois bâtiments anciens qui ont été éliminés au profit de la Samaritaine et donc de ce que Bernard Arnault voulait en faire. On est très surpris de la manière dont, au contraire, il y a un Paris ravagé. Je regardais la citation du général de Gaulle, « Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré ». Et là, on a l'impression que depuis que Paris a été libéré par Bertrand Delaunay, c'est Paris libéré, mais Paris outragé, Paris martyrisé. On ne cesse, en fait, de saccager Paris. D'ailleurs, il y a eu un moment donné un mot dièse sur Twitter, qui ne s'appelait pas encore X, qui s'appelait « Saccage Paris », où les Parisiens eux-mêmes étaient en train de protester contre la disparition des vieilles façades, la disparition de ce mobilier urbain. Vous vous dites que vous en foutez, mais malgré tout, tous ces kiosques, ces réverbères, ces plaques autour des arbres qui correspondaient à une image de Paris, à une tonalité précise, là, qui sont remplacés par du mobilier immonde qui se dégrade rapidement. Malgré tout, ça fait partie aussi de ce qu'on devrait sauvegarder.
Oui, alors, il faut dire aussi que on a tendance à revenir uniquement à l'architecture haussmannienne que j'admire, car si Paris est agréable aujourd'hui à vivre encore en partie, c'est grâce à Napoléon III et à Haussmann. Ça, mais par exemple, je trouve que l'art déco, qui est la dernière invention artistique française dans l'entre-deux-guerres, nous a donné des chefs-d'œuvre comme le Palais de Tokyo, comme des cités-jardins autour de Paris qui sont fort belles souvent. Et il y a une noblesse dans la brique rouge qui est un peu nordiste. Bon, bref. Non, mais moi, ce que je n'aime pas surtout dans Paris, c'est ce qui dépasse. Voyez. Alors, vous avez oublié de... Bon, moi, la tour Triangle, je la vois de ma fenêtre, mais ça, c'est... Mais vous savez, on a le destin qu'on peut. Mais je passe parfois devant l'avenue de France qui est dans le 13e, où il y a les deux tours du haut de Nouvelle, mais c'est abominable. Alors je ne sais pas si par exemple...
L'avenue de France, c'est cette longue avenue qui s'est créée en fait le long des voies de, qui arrive à la gare d'Austerlitz.
Qui est très laide, mais... je veux dire, heureusement, les seules choses qui dépassent, ce sont ces deux abominations qui sont les tours du haut de Nouvelle. Mais Nouvelle est un des plus grands destructeurs de civilisation qui soit. Je ne sais pas si c'est la ville de Paris ou l'État français qui a fait construire dans Paris la Philharmonie, là. Mais ça, moi, la première chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est un blocus sur lequel s'est écrasé un avion. c'est magnifique. C'est le plus grand architecte français. Alors, moi, ce que j'attends, c'est qu'un candidat à la mairie de Paris, intéressant quand même, je dirais pas dans nos idées, parce que moi, j'ai pas d'idées, mais j'ai que des sensations, des choses comme ça, c'est qu'ils disent, voilà, nous allons revenir sur les règlements d'architecture commis, car ce sont des crimes, par M. Delanoë. Et à ce moment-là, nous aurons enfin, peut-être de nouveau une ville agréable. Mais ça nécessiterait aussi des choses que la ville de Paris a fait que Paris ne peut pas se développer. Il y a deux ceintures métalliques autour de Paris, le périphérique et le tramway, imbécilité criminelle. Autant les tramways, alors d'un point de vue technique, ça faut dire, c'était encore Alstom, on sait faire, bon c'est très très bien, mais il fallait les faire en direction de Paris, car tout en direction du sud de Paris, ou du nord, parce que moi je suis dans le sud. Pourquoi ? Parce que toutes les villes, aucune ville ne conserve, sauf peut-être les villes fortifiées, mais qui avaient une raison militaire au Moyen-Âge, c'est évident, ne peut conserver son
boulevard, parce que ça s'appelait comme ça à l'époque.
Voilà, non, mais ne peut pas grandir et s'agrandir. Or, ça a permis aussi à la mairie de Paris de Madame Delanoë de dire, bah oui, mais comme on ne peut pas s'agrandir, alors on va s'agrandir en hauteur. C'est ce qu'ils appellent la densification. Cette question esthétique n'est pratiquement jamais mise en avant par les responsables politiques, quels qu'ils soient. Et ça, c'est pour ça que... Alors, il y a eu... Alors, il faut quand même dire, après Pompidou, il n'y a plus de grands présidents de la République, hein, d'hommes honnêtes.
Et puis, franchement, Pompidou et l'urbanisme, ce n'était pas non plus quelque chose que...
Je vais vous dire, si on avait mis, il avait mis son centre là, à la Défense, ça ne me dérangerait pas. Ça
voilà, mais justement...
Ça l'améliorerait peut-être, même, la Défense.
Mais parce que là, il l'a bâti au cœur de Paris, avec là aussi un saccage absolu... D'un quartier médiéval.
Et Monsieur Mitterrand a continué avec le Palais Bastille, avec l'Opéra Bastille, comme si les pauvres avaient besoin d'aller écouter de l'opéra. Non, parce que c'était l'idée au départ, c'était de dire on va faire un opéra populaire. Il n'est pas plus populaire que...
Non, vu les prix, effectivement, c'est la démocratie
puis,
de gauche.
Et puis alors, il ne faut jamais oublier que l'architecture moderne aussi, elle fiche les perspectives en l'air. C'est-à-dire que quand vous êtes au métro Saint-Paul, qu'est-ce que vous voyez devant vous en allant vers l'est? En regardant vers l'est, vous voyez les combles de l'Opéra Bastille. Magnifique, les combles de l'Opéra Bastille. Bon, bref. Donc, je n'entends pas les responsables politiques, alors que ce soit M. Tartemolle ou M. Dugenoux, Mme Machin, qui font partie des gens que je connais même pas leur nom, vous voyez.
Mais bon, je vais vous lancer sur Emmanuel Grégoire tout à l'heure, mais...
Oui, oh, c'est personne, enfin...
C'est personne, mais il a quand même... Il veut transformer toutes les portes de Paris, je cite, en véritable place du Grand Paris, reliée par une grande ceinture verte, vous qui n'aimez pas les ceintures, culturelle et sportive, prolongée de 10 km. Le bout de périphérique serait transformé en boulevard urbain avec une couverture partielle, 1000 rues piétonnes, 10 nouveaux parcs prendraient place à l'emplacement des voies de circulation sur certains boulevards parisiens équipés d'aires de jeu, de kiosques, de buvettes, de pelouses et de parcs canins pour que les toutous puissent faire caca. Et notamment, l'avenue Foch dans le 16e fait partie des axes ciblés.
Pas toucher, mais...
Qu'est-ce que vous pensez de la transformation de toute l'avenue Foch, vous qui aimez les perspectives, en immense parc avec kiosques, buvettes, pelouses et parcs canins?
Je ne l'appelle pas avenue Foch parce qu'il fait partie des grands massacreurs du peuple français. Il n'y avait vraiment qu'un grand général pendant la Première Guerre mondiale, c'était Castelnau, qui n'est pas devenu maréchal parce qu'il était catholique.
Bon. Et royaliste, voilà.
Mais royaliste aussi.
Mais il avait tous les défauts.
C'est le crime absolu. Mais il y avait Lorsac, mais enfin, il a été vite viré.
Revenons sur l'idée de transformer l'avenue Foch, quel que soit le nom que vous lui redonneriez quand vous serez maire.
Madame Hidalgo, elle voulait mettre des cubes de couleur, des HLM en cubes de couleur sur le banc. Non, mais tous ces gens-là doivent être tenus en ligne, vous comprenez. Bon, mais vous savez, j'ai entendu quelqu'un qui est dans l'opposition qui veut remettre des voitures sur les voies sur berge. Personnellement, je suis contre. Alors là, moi je suis qu'on est pour, mais de toute façon, ce qu'on a actuellement, c'est bâtard. Ce qu'il faut, c'est remettre des guinguettes, c'est de l'accordéon, c'est de la moule frite. Faut qu'on se retrouve dans Paname,
alors,
quand
y a,
même.
Il y a un des candidats à la mairie de Paris, dans le 15e arrondissement, qui propose de mettre en place ce qu'il appelle des brigades d'accordéonistes et de joueurs d'orgue de barbarie.
Mais pourquoi des brigades?
Vous êtes comme une brigade
militaire.
Je lui ai fait la même réflexion que vous, Alain. Il m'a dit, mais non, c'est brigade de cuisine. Non, les brigades de cuisine.
De cuisine.
Quand on est en cuisine, l'ensemble des gens qui sont en train de travailler, ça s'appelle une brigade.
Parce qu'ils ont l'intention aussi de nous dire comment on doit bouffer.
Mais est-ce que vous trouvez ça une bonne idée d'avoir bataillons d'accordéonistes et de joueurs d'orgue de barbarie?
Des idées, j'en ai pas. Hein, la première personne politique que j'ai eu la chance de rencontrer, un jour, je lui dis, madame, est-ce que vous avez une idée sur telle chose? Elle me dit, j'ai pas d'idée. C'était Marie-France Garraud, qui était une femme de goût d'ailleurs, et qui m'a raconté quelques petites anecdotes sur Pompidou, mais bon, c'était encore un homme honnête, malgré tout. Alors, malheureusement, il faut dire que le seul des présidents de la République qui a manifesté du bon goût, en même temps, il a fait partie des premiers destructeurs de la France, c'est Giscard. Mais il a fait arrêter quelques plans de tours dans Paris, mais c'est revenu avec Mitterrand, avec Jacques Lang, les colonnes. Non, mais... En plus, on est dans une situation terrible, parce que si vous dites, ben voilà, demain j'arrive au pouvoir, je fais raser les colonnes de Buren qui sont une abomination, à la fois esthétique et politique. Il s'agit de dire, le palais royal, il a la même valeur que les colonnes de Buren, ou plutôt les colonnes de Buren ont la même valeur que le palais royal. Mais il va falloir payer à monsieur Buren des indemnités, parce qu'on a touché à son œuvre, vous voyez, c'est...
Et cette modification du plan local d'urbanisme, des règles d'urbanisme, en fait. Donc, vous, c'est ce que vous désirez, c'est qu'on arrête de construire en hauteur, qu'on ne parle plus de densification urbaine. Et
qu'on arrête surtout avec cette architecture par paillotte, qui est une architecture de protestants qui vient des Boches et qui est le Bauhaus. Alors, le Bauhaus était socialiste, mais vous savez, après tout, les gens qui touchent du fric, ils ne sont jamais socialistes, ni de gauche ni de droite, ils touchent leur pognon, ils sont contents. Hein. Vous savez qu'il n'y a qu'un seul chef d'État qui a écouté ce que je lui ai dit. Eh bien, c'est quelqu'un, un jour, je lui dis, je sais que vous voulez refaire cette ville dans laquelle vous nous recevez si gentiment. Je vous ai apporté mon livre, Les criminels du béton. Alors surtout, faites des avenues, pas d'immeubles au-dessus de 6 étages, avec des chiens assis, hein, c'est-à-dire des toits mansardés et tout. Et j'ai vu l'autre jour sur Internet ce qu'est devenu Palais, hein, une des deux grandes villes de la République serbe, dont je suis citoyen d'ailleurs. Et évidemment, le chef d'État qui avait du goût, c'était Radovan Karadžić. Mais à mon avis, c'est pas à cause de ça qu'on l'a mis à vie au tribunal en prison. C'est parce qu'il a défendu son peuple. C'est très mal vu de défendre son peuple.
Et c'est vrai que les mansardes ont dû peser léger dans les crimes dont on l'a accusé.
Vous ne voulez pas d'avoir évoqué Radovan Ivan Karadzic.
Pas du tout.
Vous savez, j'ai même des photos, je suis avec lui.
Ben voilà, on va se concentrer sur Paris. Mais cette architecture haussmannienne, cette architecture de petits immeubles, on serait parfaitement capable de la remettre en œuvre. En fait, il n'y a pas de nécessité absolue de bâtir des façades qui sont raides comme des bâtons, plates comme des limandes et surmontées d'un toit tout aussi plat.
Écoutez, moi, quand ma première émission que j'ai reprise en 2017 après une interruption, parce que je ne voulais pas être sous les ordres de la personne qui se trouvait avant, j'ai invité M. Pemzec, qui était le maire du Plessis-Rambinson et qui a refait sa ville à l'ancienne. C'est un conte de fées quand on est au Plessis-Rambinson. Alors, il est plus maire, mais enfin, bon, ça continue dans ses idées, avec tous les gens qui viennent de ce qu'on appelle l'architecture moderne classique. Alors, il y a un Français, et puis, j'ai même invité dans mon émission, parfois téléphone, Léon Krier, ce luxembourgeois qui était le conseiller pour l'architecture du prince de Galles, avant qu'il ne devienne roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre était très bien, hein, quand il était pas roi d'Angleterre. Il disait, par exemple, évidemment, il avait eu des ennuis, il avait dit, les architectes modernes ont fait plus de destruction dans Londres que la Louve va faire.
Mais et effectivement, et aussi, surtout cette architecture dont vous donnez le nom, moderne classique, elle est, comment dire, tout à fait à même de comprendre quels sont les problèmes urbains aujourd'hui, chauffage, dimension des appartements, mais elle plaide pour des immeubles qui ne soient pas plats, des encorbellements, autrement dit, une esthétique quotidienne qui est véritablement ancrée dans une longue tradition de la ville européenne, avec donc des balcons, des sculptures, quelque chose qui flatte l'œil, qui donne envie de rentrer chez soi et pas ces immeubles qui sont des machines à habiter, comme dit Le Corbusier.
J'avais invité l'autre jour un invité, Jonathan Sixou, qui vient de sortir un livre remarquable sur les grands banquets qui ont fait l'histoire de France. On aime la France et on aime les banquets. Et il a évoqué un moment quelqu'un qui avait fait des plats qui ressemblaient à des immeubles palladiens. Mais le paladisme, 5 siècles de réussite, on avait caressé dans le paladisme. Pourquoi c'est être allé et l'influence, par exemple, de la France, la première ville à ressembler à Paris, ça a été Budapest. Alors c'est plutôt... est-ce que c'est pas plutôt Buda que Pest? Parce que vous savez, il y a deux villes, en fait, à Budapest. Bon, il y a l'ancienne et puis la nouvelle. Mais vous allez... moi, je suis allé souvent à Belgrade. Il y a des immeubles entiers qui sont nouveaux styles, qui ont été faits à l'époque où la Serbie était un grand pays, notre allié, d'ailleurs. Vous voyez, non, mais l'Europe centrale...
L'influence de la France, c'est aussi Washington. C'est un architecte français qui décide
exact,
Washington.
Exact.
Voilà. Et c'est pas pour rien que c'est joli et beaucoup plus joli que New York. Voilà, il y a des avenues, il y a des arbres, il y a des monuments dans d'un style antique.
Que je suis content de rencontrer quelqu'un qui n'aime pas New York, à part les musées.
Oui, mais enfin des jolis musées, il peut y en avoir partout.
Cela dit, vous avez quand même quelqu'un, un génie de l'architecture aux États-Unis, qui est Frank Lloyd Wright. Pourquoi? Parce que lui, il n'a jamais dit la même maison pour tous les pays et tous les climats. Il a dit, en fonction de l'endroit où construire une maison, on doit tenir compte de l'environnement. Quel crime!
Comment expliquer que les candidats à la mairie de Paris sont à ce point-là peu sensibles en fait, aux questions urbanistiques? Alors, il y en a un, Emmanuel Grégoire, qui nous explique qu'il veut faire des parcs cacanins avenue Foch. Sarah Knafo nous explique qu'elle veut recouvrir les voies sur berge pour faire en sorte d'avoir un étage piéton et un étage voiture. On a l'impression qu'il y a des grands travaux qui ne remettent pas en cause, par exemple, la voiture, qui ne remettent pas en cause l'idée qu'il y a des machines à habiter. Et donc, autrement dit, on n'a pas l'impression que ces candidats comprennent que les gens ont envie d'habiter une ville et que habiter une ville, ça ne signifie pas être coincé dans un placard.
Vous avez tout à fait raison, mais je vais vous la donner, la raison. C'est parce que les gens sont des incultes maintenant. Le président de la République est un inculte, le précédent aussi, celui d'avant aussi, Chirac n'était pas bien malin. Quant à Mitterrand, il a essayé de faire croire qu'il était cultivé, mais à mon avis, il n'était pas tant que ça. Vous voyez,
Non, et les maires de Paris successifs, depuis Bertrand Delanoë, n'ont pas l'air d'être excessivement cultivés
mais
non
vous
plus.
Vous savez, avec mon ami Benoît Dutertre, paix à son âme, on était d'accord, hein, le meilleur maire de Paris depuis qu'il est soumis à l'élection, c'était Tibéri. Et Tibéri qui admirait, par exemple, Michel Fleury, le vice-président de la commission du Vieux-Paris, à qui on doit tant de mises à jour, vous voyez, le château sous la pyramide du Louvre, enfin, plein de choses. Mais Michel Fleury, il y avait une vraie commission du Vieux-Paris. Alors, il était vice-président parce que, statutairement, c'est le maire ou le président du conseil municipal. Bon, enfin, il faisait ce qu'il voulait, il était fort peu démocrate, Michel Fleury, mais... Nous l'admirions tous, quoi. C'était un homme exceptionnel, exceptionnel.
Alain Pocard, vous ne voterez pas aux élections parce que municipal de Paris.
J'attends qu'une des deux, trois personnes à peu près qui peuvent être intéressantes malgré tout disent voilà, on viendra sur les règlements d'urbanisme, on veut plus de tours dans Paris pour que je vote. Sans ça, j'irai pas voter. D'abord, je suis fort peu démocrate, d'une part. Et deuxièmement, non, mais je vais pas. C'est comme si quelqu'un se présentait aux élections présidentielles et vous dise on va bombarder de nouveau les Serbes, par exemple. C'est des choses que je n'admettrais pas, vous voyez.
Voilà, mais effectivement, ça nous emmène un peu loin de Paris. Mais merci beaucoup, Alain
Pocard.
Vous
êtes très gentil de m'avoir invité.
Mais non, mais c'est bien normal.
Ah, et voilà. J'oubliais aussi un projet qui serait très important. Qui a été pendant des années à l'étude, ça veut dire qu'on l'a mis dans un placard, c'est la mise au jour de la Bièvre.
Cette rivière qui a été enterrée, qui était pleine de castors et qui était et de tanneurs.
Mauvais, hein,
et de, bah, il y avait des tanneurs.
Voilà. Bonne journée.
Merci Alain Pocard.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Liselotte Dutreuil.
Merci d'être avec nous ce matin, chers auditeurs. Dans quelques instants, l'analyse de Xavier Van Lierde, mais tout de suite, la chronique de Louis Rigaudière.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.